Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Simon Dutin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes au bon endroit, RMC, le temple du sport à la radio, 10 heures de direct pour ne rien rater en ce dimanche 31 août 2025. Pas besoin d'abonnement chez nous, on a les yeux et les oreilles partout. Au programme jusqu'à 17h, la Ligue 1, suite de la troisième journée, Angers-Rennes à vivre en direct en intégralité, on file retrouver Xavier Grimaud pour le coup d'envoi dans un instant. À du cyclisme, le Grand Prix de Pouet masculin après le retour de Pauline Ferrand-Prévot hier pour la course féminine, la 9e étape du Tour d'Espagne masculin. Et puis dans un instant également, la F1 de retour à Zandvoort, le Grand Prix des Pays-Bas en compagnie de Jean-Luc Roy, comme d'habitude. Vous ne manquez rien dans l'Intégral Sport qui démarre tout de suite sur RMC. Avec côté en studio pour vous accompagner jusqu'à 17h, notre consultant de la Dream Team, Sébastien Piocelle. Salut Seb.
Salut Simon, bonjour à tous.
Si on pouvait avoir 8 buts comme hier.
Même serait... en 8 mi-temps.
Oui, en une période, tu fais bien de le souligner. Un petit coucou à Xavier Grimaud, dans l'antre de Raymond Coppa. Xavier, on ne change pas une équipe qui gagne, enfin... Qui gagne ? Je
ne
sais pas.
Qui prend l'eau, on ne sait pas. Ça dépend de quel côté on est.
Bon. Alors, on verra quelle équipe va prendre l'eau et quelle équipe va surnager cet après-midi. Salut Simon, salut, salut Seb. C'est parti, Raymond Coppa pour ce match entre le SCO et Rennes depuis 45 secondes avec évidemment un homme qui était au centre de toutes les attentions, c'est Esteban Le Poll. Hey. On va en parler dans un instant parce qu'il y a la première attaque en juin avec Frankowski, le centre, deuxième poteau, Kofi qui va prendre le ballon en deux temps. La belle sortie du portier angevin sur ce centre qui était un peu profond, il a une belle extension pour capter ce ballon et au centre de toutes les attentions parce que jeudi matin il était encore à Angers, Esteban Le Poll, et trois jours après il retrouve son stade, mais ce n'est plus son stade puisqu'il a le maillot de Rennes et il est titulaire donc avec le stade rennais, donc c'est particulier, il n'y a pas eu d'accueil particulièrement hostile de la part des supporters et on a vu notamment Habib Bey s'entretenir avec lui, lui faire une grande accolade juste avant le coup d'envoi, et pas mal de coéquipiers également lui parler. Attention à la frappe de Ludovic Blas qui passe au ras du poteau d'Hervé Kofi après une roulette de Seko Fofana à l'entrée de la surface de réparation.
Il vient de réussir deux décalages là en moins de deux minutes les Rennais.
Exactement, c'est parti fort. Seb, c'est parfois les clins d'œil du foot, mais c'est quand même particulier de changer de maison comme ça en quelques jours et d'avoir son premier match avec sa nouvelle équipe face à son ancienne.
Parce que souvent, c'est un transfert. Mais bon, trois jours après, même à peine trois jours après, se retrouver là.
Bon, et si jamais il marque, Angers pourra se consoler avec le prix du transfert.
Esteban Le Poll, la première frappe justement, servie par Seko Fofana. Il y a le tacle de Jordan Lefort parce qu'il avait déclenché immédiatement. Esteban Le Poll, lui, on le sait, attaquant très instinctif, et Jordan Lefort vigilant. Attention parce que les Angevins, ils commencent déjà à reculer et à pas se lézarder encore, mais c'est compliqué déjà sur ce début de match. 2 minutes de jeu, 0-0 entre Angers et Rennes. On va pouvoir suivre le premier corner de la rencontre. Je vous donnerai les compos dans un instant. Sur la gauche, en regardant les buts de Kofi avec Frankowski qui va tirer ce corner. Frankowski de retour dans le 11 Rennais. Il était absent le week-end dernier à Lorient avec une petite gêne physique. Ça va pour le Polonais. Le corner qui va être tiré, c'est parti, tiré premier poteau dans haut point de pénalty, dégagé la tête par Ousmane Camara. 0-0, mais le début de match en faveur des Rennais. 0-0 entre Angers et Rennes.
A tout de suite Xavier, Angers, Rennes, la suite de la troisième journée de Ligue 1. Après quasiment un mois de pause, la Formule 1 fait son retour sur RMC, le Grand Prix des Pays-Bas, 15e manche de la saison. On est à Zandvoort, un circuit que Jean-Luc Roy, notre king des sports auto, connaît comme sa poche. Salut Jean-Luc.
Oui, salut Simon, salut Seb et bonjour à tous.
Bon, les feux vont s'éteindre dans quelques secondes. Le tour de formation a été fait. Deux pilotes McLaren en pole position, pas forcément, enfin en pole, pas forcément celui qu'on attendait, parce que c'est Norris qui avait dominé le week-end hollandais la saison dernière. C'est Piastri, son coéquipier de McLaren, qui part en pole. Norris devant lui, Verstappen le local et le français Isaac Hadjar, quatrième des qualifs en deuxième ligne.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'incertitudes, évidemment. La bataille, tu le sais, entre les deux hommes de chez McLaren fait rage. Hein, 9 points d'écart seulement au classement général provisoire du championnat après les 14 premiers Grands Prix. Effectivement, Piastri a signé la pole alors que Norris avait été le plus rapide dans les 3 séances d'essais libres.
Et
mais
c'est parti,
tu t'en
hein.
souviens, c'est Norris qui a pris effectivement l'avantage lors de la pole. Et puis, ce qui est très important, c'est que Verstappen part en pneu tendre. Donc, Verstappen, a priori, va être très agressif dans les premiers mètres. Il est du bon côté de la piste, du côté effectivement où l'adhérence est la meilleure. Les feux s'allument maintenant à l'extinction des feux. Ça va être parti pour 72 tours. Est-ce que les McLaren vont réussir le départ? Oui, pour Piastri, un tout petit peu moins pour Norris. Et apparemment, le plan de Verstappen a l'air de marcher. Oui, il est à l'extérieur. Il est parvenu à se glisser en deuxième position alors qu'on aborde la suite. Piastri devant, Verstappen au deuxième rang, Norris troisième, Hadjar est parvenu à conserver sa quatrième. Oulala, ça a été très chaud là pour Verstappen à l'amorce du virage numéro 3, le fameux banking qui a été créé ici à Zandvoort. Et bien pour le moment, Lando Norris, l'homme qu'il avait emporté l'an dernier ici en partant de la pole, il faut préciser que sur les 4 derniers Grands Prix qui se sont déroulés ici à Zandvoort depuis 2021, l'homme qui partait de la pole s'est toujours imposé. Ça a été Verstappen à 3 reprises en 21, 22, 23, et ça a été Norris l'an dernier, je le disais, avec un seul arrêt au stand. Mais là, il est vraisemblable que Verstappen va s'arrêter deux fois. En tout cas, le plan de Verstappen a fonctionné puisqu'il est parvenu à faire sauter un des verrous, une des deux machines couleur papaya, la McLaren de Lando Norris, donc qui est deuxième au championnat du monde derrière Hadjar, conserve pour le moment sa quatrième position devant la Ferrari de Charles Leclerc, cinquième, Russell et sixième, Hamilton septième, Lawson huitième, Sainz neuvième, et Albon 10e du côté des autres Français. Bien, Gasly est 14e et Ocon 16e pour le moment. Voilà, on va voir si Verstappen est en mesure de tenter une attaque. Ici, il y a peu de possibilités de dépassement. Il y a deux zones de DRS. La plus évidente, évidemment, c'est la grande ligne droite. Tout dépend aussi du sens du vent. On l'a vu pendant les essais, Simon, puisque selon les réglages adoptés par les pilotes et les monoplaces, eh bien, certains étaient plus handicapés que d'autres dans cette longue ligne droite. En tout cas, c'est parti maintenant pour 72 tour de ce tracé. Nous sommes dans le deuxième et Piastri a 1,3 seconde d'avance sur Verstappen. Norris pour le moment contient Hadjar qui lui-même doit se défendre des assauts de la Ferrari de Charles Leclerc, cinquième pour le moment.
La Formule 1 fait son grand retour dans vos week-ends sports sur RMC, le Grand Prix des Pays-Bas, la 15e manche d'un championnat du monde passionnant. Vous n'en manquez pas une miette sur notre antenne. Jean-Luc Roy au commentaire. Le circuit de Zandvoort, on verra si Piastri conserve son avantage. Jean-Luc Trappé, que la pole position offre souvent un avantage déterminant à l'arrivée. Le live, c'est la star de vos Intégra Sports sur RMC. On retourne au stade Raymond Coppa.
Oh, la frappe, la frappe de Yacine Bekdim, la frappe du gauche enroulé sortie par Brice Samba, et les Angevins qui font belle impression sur ce début match après avoir pris un peu le feu sur les deux premières minutes, avec notamment Jérémy Jacquet qui s'est bien manqué sur un centre venu de la gauche, et ça a profité à Prosper Peter, le jeune avant-centre d'Angers. Sa frappe n'était pas assez forte et pas assez croisée. Le nouveau centre Angevin, attention à Quentin Merlin, il ne faut pas se manquer dans la relance, et ça va redonner, ça va revenir pour Seco Fofana avec Lilian Brassier pour Quentin Merlin.
Les Angevins là, ils ont eu deux belles situations de suite, et on sent quand même dans les duels.
Et regarde la récupération haute là à l'instant de Ousmane Camara dans les pieds de Le Poll. Ouais, exactement, et ça va les mettre en confiance parce qu'on s'attendait à avoir un Stade Rennais peut-être très dominateur, parce qu'Angers évidemment on va y revenir, mais est très diminué notamment en attaque puisque vous connaissez sans doute pas ce jeune Prosper Peter, formé au club, 18 ans, quatrième match de Ligue 1 seulement, première titularisation en Ligue 1.
Ils n'ont pas le choix, Xavier.
Ah non, ils n'ont pas le choix. Leur ligne d'attaque, c'est trois joueurs formés au club. C'est trois joueurs formés au club, leur ligne d'attaque. Raoul Lisoa, alors qu'à 25 ans, il a éclos sur le tard. Prosper Peter, donc 18 ans, formé au club. Et Sidiki Chérif, qui a déjà joué un peu la saison dernière, mais qui n'a pas de référence. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont personne. Et surtout, Seb, tu as suivi ça, ils ne peuvent prendre personne. Et ça, c'est assez dingue. Il y a eu un exercice de transparence qu'il faut sans doute louer de la part du club hier, qui a publié un communiqué, parce qu'ils devaient normalement avoir en recrue Steve Mounier, l'ancien Brestois, qui aurait été prêté par Augsbourg, et Rémi Labo-Lascari, prêté par le RC Lens. Sauf que Angers a sa masse salariale encadrée par la DNCG. Ils ne peuvent même pas enregistrer les salaires de Mounier. Ça, on peut le comprendre parce qu'il a un gros salaire, mais même pas le salaire de Labo-Lascari, qui émergeait à un peu plus de 30 000 euros a priori à Lens. C'est vous dire un peu la difficulté financière dans laquelle est le SCO d'Angers.
En vendant quand même Le Poll, mais ça rentre pas.
Mais en vendant Le Poll cette semaine, 15 millions. Hein, même si les 15 millions n'ont pas été mis tout de suite dans la caisse.
C'était le petit clin d'œil. Hein. S'il marque contre Angers, Angers pourra se consoler quand même avec la belle bascule financière. Je crois que Le Poll, il était arrivé pour 300 000 euros.
150. Ils font fois 100 en un an et demi. C'est sûr que financièrement, c'est énorme.
C'est énorme, mais après, sportivement, bien sûr que c'est important, parce que ça permet aussi au club d'Angers aussi de survivre. Mais sportivement, bon, il va quand même certainement manquer après ça aux autres jeunes de faire leur trou, mais ça sera pas facile.
En tout cas, Angers qui réagit bien après un bon début de match des Rennais. On revient dans un instant, Xavier, je vous le disais. RMC a les yeux et les oreilles partout. Le live, c'est la star de vos week-ends sur RMC. Du cyclisme, après les femmes hier, place aux hommes ce dimanche dans la Bretagne Classique. C'est ici, anciennement Grand Prix de Pouet. Maria Azé, notre spécialiste cyclisme à la rédaction RMC Sport, va vous faire vivre la course en direct. Salut Maria.
Salut Simon, salut à tous.
Alors, en En une seule question, trois infos, le plateau, les favoris et un petit point sur la course qui a démarré avec toi.
Ouais, la course qui a démarré ce matin déjà à 11h, ça a commencé assez tôt. 263 km de course pour cette Bretagne classique, anciennement Grand Prix de Plouay. Aujourd'hui, 4300 mètres de dénivelé positif, un parcours un petit peu plus difficile que celui des années précédentes, voilà, avec un enchaînement de plusieurs difficultés qui arriveront au moment du kilomètre 157. Alors un très très beau plateau, hein. Il y a une grande partie du peloton qui est sur la Vuelta, mais on a un très très beau plateau ici à Plouay, notamment plusieurs favoris, les sprinteurs qui passent bien les bosses comme le français Paul Magnan, on y pense qu'il sera l'un des grands favoris aujourd'hui, Arnaud Dely, récent vainqueur du Renault Vitour il y a quelques semaines, qui revient bien. On a aussi Olaf Coy, le sprinteur de la Visma Lease a Bike, qui pourrait s'imposer aujourd'hui. Attention à Isaac Del Toro, le jeune coureur du AE, coéquipier de Tadej Pogacar, mexicain de 21 ans, qui a fini deuxième du Giro notamment cette année, qui est sur une très très grosse saison. Julien Alaphilippe, notre français, est là aussi. Axel Laurence, Dorian Godon, le champion de France. Voilà, un très très beau plateau aujourd'hui. Sous le soleil breton, c'est mieux qu'hier, parce qu'hier c'était le déluge avec Pauline Ferrand-Prévot. Aujourd'hui, il fait beau. Voilà, on arrivait prévu aux alentours de 17h30 ici à Plouay.
On va suivre ça évidemment avec toi sur RMC. Avant ça, tu en parlais, Maria. Hier, c'était la course féminine. Pauline Ferrand-Prévot faisait son grand retour après son triomphe au Tour de France début août. Retour en mode rockstar, hein, à la classique Lorient agglomération, comme il faut désormais appeler la course. 20e hier, course remportée au sprint par la Suissesse Misha Bredvold devant la coéquipière de PFP Marianne Vos. Maria, tu es aux premières loges pour RMC, hein. La présence de Pauline Ferrand-Prévot, elle déclenche désormais une hystérie, elle attire la foule autour du cyclisme féminin. Ah, on a perdu Maria sous le soleil breton. Maria, tu es de retour, tu m'entends?
Oui, je suis de retour. Il y a une petite coupure. Oui, Pauline Ferrand-Prévot qui faisait son grand retour. Et alors, ça fait déjà une semaine qu'elle est en Bretagne parce qu'elle était à Javenay pour la classique de Bretagne le week-end d'avant, qu'elle avait remporté le Critérium de Bretagne à Javenay. Voilà, hier elle a fait son grand retour sur les courses World Tour, elle qui a annoncé qu'elle allait participer au championnat du monde au Rwanda fin septembre. Évidemment, tout le monde n'avait Dieu que pour elle, hein. Il y a même plus de monde sur les courses féminines que sur les courses
masculines. C'est ça, c'est incroyable, c'est ahurissant, ouais.
C'est assez fou et c'est vrai qu'on sent vraiment un engouement autour de Pauline Ferrand-Prévot et tout le monde se demande jusqu'où elle peut aller parce qu'elle peut encore remporter ce titre de championne du monde au Rwanda, le titre de championne d'Europe dans la Drôme. Voilà, tout le monde vient pour Pauline Ferrand-Prévot et c'est vraiment la star autour du bus. Hier, il y avait un monde fou, même sous le déluge, donc c'était assez impressionnant.
Et avant ça, pour ceux qui l'ont raté hier à Plouay, elle donne rendez-vous à ses fans au Tour féminin de l'Ardèche du 9 au 14 septembre prochain. Petit quiz, Sébastien Piocelle, la première étape, elle arrivera à Laudun-l'Ardoise, dans le département de...
Du Gard.
Excellent, voilà. Je savais, toi, le régional de l'étape. Je voulais te faire dire l'Ardèche, sans réfléchir, mais non. Le Gard, évidemment. On arrivera à Privas, chef-lieu, là, cette fois-ci de l'Ardèche. À tout à l'heure, Maria, le Grand Prix de Plouay. Nous, on va continuer à l'appeler comme ça. La course masculine à suivre cet après-midi dans l'Intégral Sport sur RMC. Chez les messieurs, également, la Vuelta, 9e étape. C'est le Tour d'Espagne, évidemment. C'est Johan Bredov, notre autre spécialiste cyclisme de la rédaction RMC Sport, qui suit ça pour nous. Salut Johan.
Salut Simon, salut Seb, salut à tous.
Alors 195,5 km entre Alfaro et Valdescaray.
Oh là là, attention. C'est fou. LV1 espagnol.
LV4,
c'est ça. Il reste encore, tu le disais, 195 km au total. Les coureurs qu'on a effectué une très bonne partie. Il reste 78 km avant cette arrivée donc, dans la station de ski de Valdescaray. Et pour l'instant, la situation de course, c'est 5 hommes en tête. Je vous donne les noms avec l'allemand Michel Essmann qui est là de la Movistar, Miral Kwiatkowski, l'ancien champion du monde, le polonais, également présent parmi les 5 hommes de tête. Archie Ryan, l'irlandais, l'américain Kevin Vermaak et le belge Liam Slok, mais seulement 2 minutes et 33 secondes d'avance sur le peloton du maillot rouge porté par le norvégien Thorstein Train.
Alors, ça va durer jusqu'à quand cette histoire, Johan?
Ça pourrait durer encore un petit peu parce que.
Il peut le rapporter à Madrid?
Non, à Madrid, non, ça sera impossible. Mais là, tu vois, on est sur une étape typiquement vueltaesque, c'est-à-dire que c'est une course de côte, comme on appelle. Alors, oui. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jargon cycliste, c'est une étape quasiment plate.
Ça monte un peu, mais pas beaucoup.
Voilà, c'est une étape quasiment plate et avec une arrivée au sommet. Voilà, ça sera une des 10 arrivées au sommet de cette Vuelta, donc dans la station de ski de Valdescaray. Donc, ça va se jouer vraiment sur les dernières pentes. Il y aura 13 km de montée à 5% de moyenne. Ça sera vraiment difficile sur les deux premiers tiers de cette montée.
manger avant un replat, un léger replat, donc vers la fin et vers la ligne d'arrivée. Donc voilà, on attend une explication pourquoi pas entre les favoris, mais pour l'instant toutes les arrivées comme ça, toutes les courses de côte qu'on a déjà vécues sur la Vuelta ont accouché d'une souris, parce que Jonas Vingegaard par exemple n'a pas beaucoup tenté. On a vu des Giulio Ciccone qui ont essayé, ou des Joao Almeida, mais pour l'instant Jonas Vingegaard lui attend vraiment la deuxième voire la troisième semaine pour porter une vraie estocade et essayer de remporter pour la première fois la Vuelta.
Bon, cette neuvième étape entre Alfaro et Valdescaray, neuvième étape du Tour d'Espagne à suivre évidemment tout l'après-midi sur RMC dans l'Intégral Sport avec toi Johan, à tout à l'heure. On retourne au stade Raymond Coppa faire un point de temps et score avec Xavier Grimaud. Des occasions des deux côtés entre Angers et le stade Rennais, hein, Xavier.
Ouais, exactement, la dernière en date elle est rennaise avec une frappe à l'instant de Quentin Merlin, mais c'est un match intéressant avec des Angevins notamment qui arrivent à se faire des circuits de passe, à garder aussi la balle avec des moments de conservation. C'est intéressant, un quart d'heure de jeu, 0-0 malgré tout ouvert. Exactement, c'est un match assez ouvert. Il y a eu un gros tac quand même de Belkebla tout à l'heure sur Valentin Rongier. Il n'y a pas eu de carton jaune, mais en revoyant le ralenti, il lui avait bien pris les deux jambes à l'arrière. Arrive Belkebla, donc sans conséquence pour les Angevins. La 16e, 0-0 entre Angers et Rennes.
Sébastien Piocel, notre consultant, je te ferai réagir dans un bien instant. Sûr. Mais c'est bon signe quand j'ai pas le temps de donner la parole au consultant, c'est qu'il se passe plein de choses. Et partout, RMC, les yeux et les oreilles, partout, le sport fait l'événement. Le Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas, Jean-Luc Roy, un petit point sur les positions après ce début de course.
Et oui Simon, parce qu'effectivement là il vient d'y avoir une attaque de Lando Norris à la fin du 9e tour sur Verstappen qui avait pris l'avantage donc pour la 2e position. Piastri est loin devant, hein, il a plus de 4 secondes d'avance, et l'attaque de Lando Norris avec sa McLaren a été concluante. Il a attaqué à l'extérieur du virage numéro 1, le fameux virage de Tarzan. Il s'est positionné pour l'amorce du virage numéro 2 et il était devant au virage numéro 3. Donc les deux McLaren au commandement, maintenant on s'y attendait, hein, elles sont tellement dominatrices depuis le début du week-end, même depuis le début de la saison. Donc Oscar Piastri, le poleman, leader maintenant avec 4 secondes 3 d'avance sur l'autre McLaren, celle de Lando Norris. Verstappen se retrouve 3ème avec ses pneumatiques soft. Et bien pour le moment, Adjar, le français Isaac Adjar, tient le coup avec la Racing Bull. Il est 4ème, il a été un petit peu attaqué par la Ferrari de Charles Leclerc, 5ème, mais pour le moment Charles n'est pas parvenu à passer. Russell est 6ème, lui a raté un petit peu son départ. Hamilton est 7ème, sa place au départ. Lawson 8ème, Sainz 9ème, Albon 10ème, et derrière, et bien Tsunoda a remonté une place. Et du côté des autres Français, Gasly est 15e et Ocon 17e. En tout cas, on se focalise sur la bataille devant et on annonce un peu de pluie, quelques gouttes de pluie qui devraient tomber, Simon, sur ce tracé dans les dunes de la mer du Nord, dans les dunes de Zandvoort, qui vont peut-être occasionner des arrêts au stand pour monter les pneumatiques intermédiaires à voir.
Le duel entre Oscar Piastri et Lando Norris, les deux pilotes d'une écurie McLaren dominatrice, c'est ça qu'on attend. Le Grand Prix des Pays-Bas, la 15e manche de la saison. La Ligue 1, Angers-Rennes, le cyclisme, le Grand Prix de Pouet, la Vuelta comme d'habitude. Vous ne manquez rien dans l'Intégral Sport qui revient dans quelques secondes à peine.
RMC Intégral Sport,
Simon Dutin.
On est au cœur d'un grand dimanche de sport comme quasiment chaque week-end sur RMC. Vous en avez l'habitude. Sébastien Piocel, notre consultant de la Dream Team, autour notamment de Angers, Rennes, Xavier Grimaud. Ce qui devait arriver arrive.
Évidemment, c'était l'histoire finalement. Esteban Le Poll qui ouvre le score pour le Stade Rennais il y a quelques instants. Très belle action, hein, Seb, avec notamment une passe de Rouault, un superbe travail technique de Fofana, le relais de Blas. Fofana qui écarte côté gauche en une touche, le centre de Merlin et un vrai but d'avant-centre avec Esteban Le Poll qui se jette et du bout du pied qui trompe Hervé Coffi. Ça termine dans le petit filet. Le but de Le Poll évidemment sifflé, hein, par le stade Raymond Coppa, juste au moment où le cop de la butte, le cop angevin, allumait pas mal de fumigènes. Donc il y a deux fumigènes qui ont fini dans la surface de réparation de Brice Samba. Donc le match est momentanément arrêté, mais ça ira pas plus loin, hein, je pense. Et il y a le speaker à l'instant qui vient de laisser un message. Ouais, c'est écrit, hein, sans doute, Seb, que Le Poll marque,
c'est,
hein,
c'est
trois jours
en antenne avec après avoir c'est fini. Ouais, ça devait se passer comme ça. En tout cas, la construction du but elle est très 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 belle, avec une bonne inspiration au départ de Seko Fofana. Et puis encore une fois, on retrouve Esteban Le Poll dans dans la peau du vrai avant-centre, hein, qui coupe la trajectoire et qui vient ouvrir le score. Ça s'était plutôt équilibré, hein, depuis le début de la rencontre, mais c'est vrai que là, du coup, le fait que les Rennais aient pris les devants, ça va leur ouvrir encore un peu plus d'espace face à une équipe d'Angers, je trouve, qui est quand même assez joueuse. Et c'est ça le problème, c'est que si ça marque pas derrière, ouais, ça peut être compliqué.
Et avec un Seko Fofana à la manœuvre, en proactif, ouais, quasiment en numéro 10, hein,
qui fait jouer ses partenaires. Je pense qu'il a fait une vraie préparation. Ouais. Il était arrivé un peu avec une.
10 jours avant la reprise. Ouais, il a commencé 10 jours avant les autres, seul.
Et
à
il
la
sait très bien qu'il n'a pas réussi sa deuxième partie de saison à Rennes. Et là, on retrouve petit à petit le vrai Seko Fofana, donc qui est en qualité de joueur, mais aussi en qualité de leader.
Ouais.
Et on le retrouve dans son style. Là, tu vas voir Feb, justement, très élancé là, dans ses courses, avec énormément de puissance. Et voilà, Bibey le disait, hein, il a envie de faire fermer les bouches, comme on dit un petit peu, de montrer qu'il a toujours le niveau.
Et c'est quasiment une recrue pour le Stade Rennais.
Ah oui, clairement.
Il n'avait pas.
Sachant que Djaoui Cissé ne joue quasiment plus.
Et Djaoui Cissé, la révélation de la saison dernière, démarre les matchs sur le banc pour ce début de saison. On revient dans un instant, Xavier.
Il y aura un coup franc pour Rennes, ouais, dans quelques instants. Un bon coup franc pour une faute sur Blas.
Mais avant ça, c'est le rendez-vous du dimanche, le rendez-vous qui ne manque pas de sel, le résultat du Quintet Paris-Longchamp avec Mathieu Zaccanini. Salut Mathieu.
Salut Simon, salut Seb, salut à tous. Le Quintet s'est disputé aujourd'hui, hein, donc sur la piste en gazon de Paris-Longchamp, sur la distance des 2400 mètres. C'était un handicap. Et on a assisté à une arrivée de gros outsiders, puisque la victoire est revenue au numéro 8, Bad Boy, à plus de 50 contre 1. Il a devancé le numéro 6, White Horse, à 20 contre 1. La troisième place est revenue à un autre outsider, le numéro 5, Half Dancer. La quatrième au numéro 16, Screenshot. Et enfin, c'est le numéro 14, un Zilrak, qui a bien fini et qui a obtenu la cinquième place, qui nous donne une arrivée provisoire de ce Quintet disputé aujourd'hui sur les pourrons de Paris-Longchamp. 8, 6, 5, 16 et 14, et je reviendrai donc d'ici une trentaine de minutes pour vous donner l'arrivée, les rapports définitifs de cette compétition. À tout à l'heure.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
A tout à l'heure, Mathieu. Rendez-vous dans le JT. Les infos de 16h. Retour à Zandvoort, le Grand Prix des Pays-Bas, 15e manche de la saison. Jean-Luc Roy, où en sommes-nous? Toujours les deux McLaren en tête.
Absolument Simon, nous sommes dans le 17e des 72 tours et la pluie attendue, quelques gouttes commencent à tomber. On le voit sur l'objectif des caméras tout autour de ce tracé de 4 km 259 de Zandvoort. Et pour le moment, le leader Oscar Piastri, depuis le départ, a toujours un avantage d'un peu plus de 3 secondes sur son équipier Lando Norris, qui a donc dû se défaire de l'attaque de Verstappen dans le premier tour. Verstappen qui est maintenant 3e avec les pneumatiques soft, et c'est un petit peu étonnant parce que Pirelli nous avait dit qu'on devrait s'arrêter aux alentours du 13e, 15e tour avec les softs. Et pour le moment, Verstappen les fait vivre. Alors il est loin, hein. Il a vraiment un écart de performance très important avec les McLaren. Il est à 12 secondes de Lando Norris et il contient pour le moment Hadjar, toujours brillant, 4e le français avec la Racing Bull, et qui a 2 secondes de retard sur Verstappen. Il compte 1 seconde et demie d'avance sur la Ferrari de Charles Leclerc, qui a tenté une ou deux manœuvres d'intimidation mais qui n'est pas parvenu à passer. Russell est toujours 6e après un départ un peu moyen. Hamilton 7e avec l'autre Ferrari devant Lawson, Sainz et Albon. Voilà pour les hommes dans les points. Mais la pluie a l'air de commencer à tomber sur ce tracé dans les dunes de Zandvoort. Et peut-être, Simon, qu'on va avoir là quelques bouleversements des positions si les pilotes sont obligés de monter les pneumatiques intermédiaires.
Est-ce que ça peut embêter les McLaren, favoriser d'autres écuries si la pluie s'invite?
Écoute, on sait jamais, tu sais ce qui arrive. D'ailleurs, une erreur d'un pilote, puisque c'est Piastri quand même qui ouvre la piste, hein. C'est lui qui découvre un petit peu l'adhérence. Pour le moment, ça ne paraît pas du tout modifier la qualité de la piste. Alors oui, ça peut modifier les choses si des équipes sont plus rapides. Tu le sais, les records, c'est un petit peu inférieur à 2 secondes, à 1 seconde 9 exactement, pour changer les 4 pneumatiques en s'arrêtant au stand. Bon, faut dire qu'ils s'y mettent à 21 mécanos quand même, hein, autour des monoplaces de Formule 1. Donc oui, ça peut changer les choses, surtout si certains pilotes commettent des erreurs au moment où la piste va commencer à perdre un petit peu d'adhérence. Ça ne semble pas être le cas, hein. Ce qui m'étonne, c'est que les pilotes partis en slick pour le moment sont toujours sur la piste. Donc une nouvelle fois, les prévisions de Pirelli sont mauvaises. Et puis c'est le cas également du live timing de la FIA. Je peux dire qu'il ne fonctionne pas. Ça fait le 2e ou 3e Grand Prix successif qu'on a des problèmes à ce niveau-là. Mais bon, on se débrouille quand même, tout va bien.
On va écrire à la Fédération Internationale Automobile. 21 mécanos, c'est un petit peu comparable à ce qu'il s'est à faire sur la Clio de Sébastien Piocel. Petit souci dans son quartier. À tout à l'heure, Jean-Luc, micro ouvert. Tu nous informes s'il se passe quelque chose sur le circuit de Zandvoort, donc le Grand Prix des Pays-Bas. de Formule 1. On retourne au stade Raymond Coppa, Xavier Grimaud, le cornet, le coup franc René n'a rien donné, mais le stade René mène toujours 1-0.
Oui, le stade Rennais mène 1-0, on joue la 28e, le but d'Esteban Le Poll, la 21e minute bien servie par Quentin Merlin, vrai but d'avant-centre, hein, il se jette et du bout du pied il arrive à dévier la trajectoire, à tromper Hervé Coffi. Le coup franc était très généreux, hein, pour les Angevins, pour les Rennais. Heureusement il n'a rien donné parce qu'Alexandre Dujeu a piqué une grosse colère, c'est vraiment pas le genre. Il a pris un jaune d'ailleurs sur cette action en renvoyant l'image, c'est vrai qu'il n'y avait absolument pas faute sur Ludovic Blas. Je pense que l'arbitre devait suivre le ballon, il n'a peut-être pas très bien vu le départ de l'action. En tout cas, ça n'a rien donné. Heureusement pour lui et pour les Angevins. 1-0, ça va être dur. Hein. Maintenant, évidemment, pour le SCO qui a très très peu d'arguments offensifs. On l'a dit, il y a une banderole dans le COP Rennais, dans le COP Angevin notamment, qui disait qui veut jouer neuf. C'est assez abusant, mais c'est assez terrible pour la situation du club Angevin qui, on espère pour eux, va réussir à trouver des solutions pour au moins enregistrer quelques joueurs, parce que s'ils doivent faire comme ça jusqu'à la trêve hivernale, ça peut être très très long. C'est très certainement le club qui souffle le plus, hein, de la crise des droits, le club du SCO d'Angers, pourtant un club bien vendeur à ces dernières années. Le débordement Angevin, et pourquoi pas avec ici Yacine Blackdim, la patte pour Prosper Peter avec Lilian Brassier derrière lui qui va prendre le ballon en premier. On avait une frappe tout à l'heure de Sidiki Chérif captée par Brice Samba. Est-ce qu'il y aura un contre Rennais avec Moussa Altamari? On a 70 mètres, hein, des buts de Kofi, il va falloir déclencher vite. Il y a l'appel d'Esteban Le Poll, il ne faut pas se manquer. Ousmane Camara, c'est bon, il a bien pris le ballon, le défenseur Angevin.
Là, sur le décalage Angevin, là on voit c'est un jeune joueur, hein, ouais. Peter, mais là il doit aller là il doit couper la trajectoire parce que le centre il est pas mauvais. Et bon, c'est vrai que c'est difficile, hein, sur ce poste là d'avoir autant de responsabilités, même si c'est toujours intéressant de jouer. Mais en tout cas les Angevins, depuis l'ouverture du score rennais, ils sont restés assez haut. On sent qu'ils essayent quand même de produire quelque chose, mais c'est un peu stérile dans les 20 derniers mètres.
Mais tu le soulignais, c'est vrai qu'on s'attendait peut-être pas à ce qu'Angers joue autant, sorte autant. Et bon, tant mieux, hein, évidemment, pour le spectacle et pour le match. On préfère avoir un match enlevé comme ça, mais c'est aussi une prise de risque qui, une fois qu'on est mené au score, s'avère un peu à double tranchant. Et pour l'instant, c'est le cas. Pour le SCO, il y aura position de hors-jeu là sur une attaque angevine. On va pouvoir repartir pour le SCO avec la deuxième passe D, hein, au passage de Quentin Merlin cette saison, qui lui a réussi des très bons débuts, hein, avec le Stade Rennais. Il a été performant sur les trois matchs pour l'instant, enfin sur les deux matchs quasi et demi depuis le début de la saison, et son arrivée du côté du Stade Rennais. Le ballon juste devant la surface angevine avec Belkebla qui va relancer court vers Ousmane Camara, obligé d'allonger. On va voir Prosper Peter face à Jérémy Jacquet. Il y a le jeu de main de Jérémy Jacquet, il y a faute, oui, de Jérémy Jacquet. Là il a bien joué en pivot, le jeune Prosper Peter, parce qu'il avait bien mis en difficulté Jérémy Jacquet.
Et Jacquet qui est costaud, hein, au duel, donc solide le jeune angevin. On revient dans un instant, Xavier Grimaud, au stade Raymond Coppa, Angers, à Rennes, la suite de la troisième journée de Ligue 1. Elle se conclut ce soir par l'Olympico au LOM. Ce sera à vivre évidemment sur RMC. On n'oublie pas le cyclisme, le Grand Prix de Poué, la 9e étape de la Vuelta, le Tour d'Espagne, et le Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1. Comme d'habitude, vous ne manquez rien sur RMC. On revient dans quelques instants.
RMC Intégral Sport,
Simon Dutin.
Vous ne manquez rien comme 5 week-ends sur RMC Intégral Sport. On est ensemble en direct jusqu'à 17h en compagnie de Sébastien Piocel, notre consultant foot, autour de la rencontre notamment Angers-Rennes, la première rencontre de ce dimanche. Elle se conclura, je vous le rappelle, par l'Olympico au LOM ce soir, à vivre évidemment en direct en intégralité sur RMC. On retrouve Xavier Grimaud au stade Raymond Coppa dans un instant, mais avant ça, un point sur le Grand Prix des Pays-Bas. J'en lui crois pendant la pub, abandon de Lewis Hamilton.
Et oui, malheureusement, effectivement, Simon, une erreur là de Lewis à l'amorce du virage numéro 3. Alors la pluie tombait de plus en plus ardemment apparemment sur cette piste, et là il s'est fait piéger malheureusement, et un peu à la manière de Stroll d'ailleurs aux essais, hein, qui était sorti au même endroit mais sur le sec. Et là Lewis est sorti légèrement de la trajectoire, il est monté un petit peu trop haut sur le banking dans ce fameux virage numéro 3, et il a été tapé le mur avec la Ferrari. Il était derrière Russell, on le rappelle, au 7e rang. Alors évidemment, neutralisé, c'est-à-dire safety car immédiatement, et c'est la valse des arrêts au stand maintenant. Mais la majorité des pilotes, pour ne pas dire la totalité, choisit de repartir avec les pneumatiques prévues pour le sec. Donc on ne s'attend pas à ce que la pluie devienne plus dense et plus présente sur ce tracé de Zandvoort pour le moment. Grosse déception, une nouvelle, on peut le dire, pour Lewis Hamilton. Donc décidément, cette saison chez Ferrari, cette saison 2025, est un véritable chemin de croix. Lui qui, pour le moment, était dominé par son équipier Charles Leclerc. Il est sixième au classement général provisoire du championnat du monde avec 109 points. Charles Leclerc est devant avec 151 points.
Et une première saison pour Hamilton qui confirme les difficultés légendaires qu'on a à s'acclimater à l'écurie Ferrari, même lorsqu'on est multiple champion du monde. A tout de suite, Jean-Luc, à la suite de ce Grand Prix des Pays-Bas. Xavier Grimaud, au stade Raymond Coppa, Angers-Rennes. Est-ce que les Angevins réagissent après l'ouverture du score des Bretons?
Ah, ils essayent encore de jouer assez haut, de déclencher assez vite, mais voilà, la passe parfois n'est pas simple et Prosper Peter a du travail évidemment, mais il n'y a pas de grosse situation depuis le but sur le but de Kofi en tout cas. Donc pour l'instant ils tiennent ce score, ils essayent quand même de réagir. Le score est peut-être ici avec Frankowski. On a beaucoup attaqué à gauche du côté de Rennes avec Lilian Brassier. Alors, Brassier techniquement c'est pas terrible ce qu'il nous fait depuis 5 minutes. On l'a vu faire une transversale tout à l'heure vers Altamari qui était vraiment mal négociée alors qu'il y avait un jeu un petit peu plus court. Là, l'ouverture pour Fofana est totalement manquée par le gaucher.
Les Rennais, ils sont plus dans une phase un peu là de gestion déjà. Alors peut-être qu'ils ont vu aussi que les Angevins essayaient de réagir et ils ont du mal à aller vers l'avant. Bon, il y a des erreurs techniques, mais ils sont plus dans le fait de priver les Angevins de ballon tout en étant un petit peu stérile, je trouve. Après pour Angers, bon, on parlait de qualité, mais c'est vrai que c'est dur pour eux de s'approcher du but de Brice Samba.
On pouvait s'attendre à plus de contrôle effectivement de la part de Rennes. On est à 50-50 pile en possession, une grosse occasion de chaque côté. Alors, la grosse occasion angevine pour les stades, je ne sais pas ce que c'est peut-être la frappe c'était Raoulis Soa, c'était Louis Mouton, je ne sais plus qui avait fait, c'est Sheriff peut-être qui avait fait cette frappe
Sheriff.
Du gauche qui avait été sortie par Brice Samba. Ça doit être celle-là, ça doit être considéré comme la grosse occasion, ou plutôt peut-être la frappe de Peter en début de match captée par Samba. Les Rennais à l'attaque avec Altamari qu'on voit pas beaucoup, hein. La remise elle est pas bonne, mais Frankowski qui va pouvoir la garder avec Anthony Roux pour Valentin Rongier. Rongier qui la demande entre les lignes, qui va se remettre dans le sens du jeu avec l'appel de Frankowski, mais il a deux Angevins face à lui. Il va essayer d'aller chercher la touche, l'ancien Nantais, et il va l'obtenir, une touche pour les Rennais et pour Frankowski. Mais effectivement, on sent que les Rennais n'ont pas forcément envie d'emballer totalement cette rencontre. Alors c'est vrai que gagner c'est important pour eux, hein, pour faire basculer le mois d'août du bon côté après la victoire face à Marseille qui a donné dans le scénario beaucoup d'émotions, mais qui était à 10 contre 11, et puis la lourde défaite à Lorient avec ce scénario où ils s'étaient retrouvés à 9 contre 11 au bout de 11 minutes. La bonne nouvelle c'est qu'on est à la 37e, 38e et qu'ils sont toujours à 11, donc ça c'est déjà bien. Il y a du progrès dans la discipline du côté des Angevins. Les Raoulis Soa pour le SCO. Elle est pas mal ce changement d'aile peut-être. Frankowski qui va revenir juste à temps. Le changement d'aile vers Sidiki Sheriff. Il est bien revenu l'international polonais, et le ballon dans les pieds de Brice Samba avec Lilian Brassier dans un stade Raymond Coppa qui est assez silencieux. On entend surtout le COP Rennais parce que le parcage Rennais est vraiment plein. C'est l'un des déplacements les plus courts à faire pour les Rennais. Et il y a pas mal de maillots rouges aussi qui parsèment les tribunes, mais
on a pas grand monde. On a du mal à trouver aussi, je trouve, les relayeurs. Là, on a beaucoup vu au début du match Fofana, Ludo Blas. Je les trouve assez. Alors même s'ils ont été, ils étaient là sur le but. Hein. Mais je trouve qu'on a du mal à les toucher. Je parle pas là comme sur l'action là où Fofana décroche beaucoup, mais je parle entre les lignes, ce qui est une de leurs forces normalement, et je trouve que Angers pour le coup défend bien.
Avec un Blas qui Seb est aligné au milieu, plutôt en soutien des deux attaquants, enfin un peu vraiment en position libre, hein. Il peut aller à droite, à gauche, où il veut. Et je le regarde depuis plusieurs minutes, il n'a pas beaucoup de ballons aussi parce qu'il a Arif Belkebla qui fait une individuelle sur lui. Hein. Mais vraiment une individuelle. Il ne le quitte pas d'une semelle et il n'a pas un mètre. Ludovic Blas pour le moment, le capitaine Angevin, c'est une consigne tactique évidemment. On imagine d'Alexandre Dujeu. Et pour l'instant, ça empêche effectivement Ludovic Blas d'être touché. Parce qu'ils ont réussi à passer les Rennais malgré tout. Altamari la passe vers Blas juste dans la surface, et la bonne lecture d'Ousmane Camara qui peut donner à Kofi. 1-0 pour le Stade Rennais. Le buteur c'est Esteban Le Poll, la double peine pour les supporters angevins qui marque à la 21e.
La bonne nouvelle pour les Rennais c'est qu'ils sont toujours à 11. La bonne nouvelle pour nos auditrices et nos auditeurs c'est qu'il n'y aura plus de pub avant la fin de la première période de ce Angers-Rennes, la suite de la troisième journée de Ligue 1. Ça va nous donner quelques secondes pour aller faire un petit coucou à Maria Azé, la Bretagne Classique CIC, anciennement Grand Prix de Plouay. Maria, un petit point sur la course avec toi.
Ouais, 76 km de l'arrivée ici à Plouet. Simon, peloton groupé. L'échappée matinale de ce matin, l'échappée matinale a été reprise il y a quelques instants. Peloton groupé, ça devrait être assez calme pendant les 50 prochains kilomètres. Et l'arrivée à la côte de Martal, une des grosses difficultés de ce jour. On a vu quelques offensives quand même, quelques coureurs tentés, notamment Isaac Del Toro. Mais rien de bien concluant. Peloton groupé à 76 km de l'arrivée.
À tout à l'heure, Maria. La Vuelta, 9e étape du Tour d'Espagne. Johan Bredov, un petit point sur la course avec toi, cette course de côte.
Exactement, il reste 60 km donc avant l'arrivée à la station de ski de Valdescaray. Tu disais course de côte parce que ça sera la seule difficulté, c'est d'arriver au sommet. 13,3 km de montée à 5,2% de moyenne. Exactement, la situation de course est toujours la même avec les 5 hommes de tête, Esman, Kwiatkowski, Archie Ryan, Kevin Vermaak et Liam Slug, qui possèdent maintenant à peine 2 minutes d'avance donc sur le peloton maillot rouge. Maillot rouge porté par Torsten Train, qui possède 2 minutes et 33 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard. Mais c'est surtout le Danois qui fait office de baromètre comme ça pour l'écart. Je vous donne juste les écarts au général parmi les principaux favoris de cette 80e Vuelta. Donc Jonas Vingegaard est à 2 minutes 33. Joao Almeida est 2 minutes et 41 secondes. Giulio Ciccone à 2 minutes et 42 secondes. Donc du leader norvégien. Et le premier français, c'est Bruno Armirail, qui est 16e à 3 minutes. 40 secondes, donc 60 km avant l'explication pour la victoire d'étape, et ça sera parmi les principaux favoris normalement.
À tout à l'heure, Johan, vous le savez, RMC a les yeux et les oreilles partout, le sport fait l'événement. Elles n'en finissent plus d'écrire leur histoire. Les Bleus de l'équipe de France féminine de volleyball ont réalisé un nouvel exploit cet après-midi. On l'a suivi avec Seb en rédac sur nos écrans. C'était le premier huitième de finale dans le championnat du monde de l'histoire du volley féminin tricolore. Figurez-vous que les Françaises ont battu la Chine 3-7-1, la Chine, 5e nation mondiale. Ça se déroulait à Bangkok, en Thaïlande. Les joueuses de César Hernandez sont donc qualifiées pour les quarts de finale. C'est une première, évidemment, pour le volley féminin. Souvent, les volleyeuses françaises étaient considérées comme la moins bonne des équipes de France, hommes, femmes confondus, de sport collectif, le hand, le basket, le volley. Voilà qui va contribuer à mettre en lumière leur performance. Elles affronteront en quart de finale le vainqueur entre le Brésil et la République dominicaine, qui s'affrontent en ce moment. On va évidemment suivre ça sur RMC. Les Françaises du volleyball qui ont donc fait un exploit en battant les Chinoises en huitième de finale. Jean-Luc Roy à la Formule 1, le Grand Prix des Pays-Bas. Est-ce que la pluie s'est arrêtée à Zandvoort?
Oui, absolument, Seb. Elle n'a pas véritablement
perturbé. Patrick, Jean-Luc.
Pardon ?
Non, moi c'est Patrick. Tu m'appelais Seb, tu t'es trompé.
Ah oui, c'est moi Gérard. Donc effectivement, la pluie n'a pas trop perturbé, à part effectivement pour Hamilton, on l'a bien vu malheureusement, sorti de la piste, ce qui a initié le safety car qui est resté en piste 3 tours. Là on a remis évidemment le drapeau vert, les pilotes sont repartis. On a eu un accrochage au moment du restart d'ailleurs entre Carlos Sainz et Lawson, Liam Lawson. Les deux pilotes ont dû repasser par la voie des stands pour changer de pneumatique. On a monté d'ailleurs des softs à ces pilotes-là. Nous sommes dans le 30e maintenant des 72 tours de ce Grand Prix. Et pour le moment, eh bien, du côté des McLaren, tout va bien, puisque Oscar Piastri a recreusé un écart de près de 2 secondes maintenant sur Lando Norris, qui est deuxième. Le troisième, c'est toujours Verstappen. Alors, la petite différence, c'est que du côté de Red Bull, il fallait bien essayer quelque chose. On a monté des pneumatiques médium, alors que l'intégralité des pilotes en piste, à l'exception, je viens de le dire, de Sainz et de Lawson, est équipée de pneumatiques durs pour aller jusqu'au terme de ce Grand Prix. Et bien du côté de Verstappen, pour essayer justement autre chose, essayer de revenir sur les McLaren, on a monté les médiums. Hadjar est toujours à un excellent quatrième pour le moment devant Russell. Alors l'arrêt au stand a bénéficié à la Mercedes de Russell, qui est parvenu à prendre la 5e place à Charles Leclerc, qui est maintenant 6e avec la seule Ferrari rescapée devant Albon 7e. Antonelli lui aussi a profité de ses arrêts au stand pour remonter en 8e position devant Stroll 9e et Ocon 10e. Il faut préciser que Stroll et Ocon étaient partis en pneumatique dure, je l'ai dit tout à l'heure, et comme ils ne se sont pas arrêtés au stand, bah évidemment, ils sont entrés dans la zone des points, 9e et 10e pour le moment, devant Burman d'ailleurs, l'autre As qui est 11e. Du côté des autres Français, eh bien, Gasly est pour le moment 14e. De l'autre Français, on est dans la deuxième partie, on va dire, de la course. Simon, j'ai bien dit Simon, et la piste est toujours sèche pour le moment. Je ne pense pas que ça se mouille plus que ça, bon, pour le moment.
Voilà, tu te mouilles en nous disant que ça ne se mouillera pas.
Je me mouille en me disant que ça ne se mouillera pas.
C'est le principe de notre métier. Tout à l'heure, Jean-Luc, 5 secondes moins que ça entre les trois premiers, voilà, qui nous promet encore du suspense, ce Grand Prix des Pays-Bas qu'on suit sur RMC avant de retourner au foot. J'ai même pas eu le temps de vous dire que c'est l'une des innovations de la rentrée. Vous savez que la promesse de RMC, c'est ce lien entre vous et l'antenne. RMC a créé son compte, son numéro WhatsApp. 06 12 424 424. 06 12 424 424. Vous entrez ça comme un nouveau contact dans votre téléphone et vous nous parlez sur WhatsApp. Les messages s'affichent directement en studio. Vous pouvez réagir. Ça fait un carton depuis qu'on a lancé ça. On passe notre temps à recharger la tablette qui fatigue déjà tellement on reçoit de messages. Et on apprécie le fait que vous nous écriviez depuis la France, mais pas seulement, depuis partout dans le monde. Vous continuez, vous n'hésitez pas. Retour au foot pour à la fin de la première période entre le SCO d'Angers et le Stade Rennais, Xavier Grimaud.
Et la 46e, 45 plus 1, il y a 3 minutes de temps additionnel. Il reste 2 minutes à jouer, 1-0 pour le Stade Rennais. Le but d'Esteban Le Poll à la 21e sur un superbe service parfait. Enfin parfait, oui et non, parce que le centre de Merlin était bon dans la zone, mais Le Poll s'est bien arraché pour réussir à ouvrir le score. Et pour l'instant, le match qui est tombé un petit peu en intensité, Zab, on parlait... Oui.
Est-ce que t'es d'accord qu'on a failli assister encore à un carton rouge?
C'est exactement ce que j'allais dire.
Un deuxième jaune.
On parlait des... Oui. On parlait des Rennais qui n'avaient pas pris de rouge et c'était un petit exploit qui en ont qui dénombre déjà 3 rouges en 2 matchs. Et là il y a une faute encore de Jérémy Jacquet, alors qui paraît pas énorme à vitesse réelle, mais il y avait un coup dans le bas du dos de Prosper Peter qui arrive à tenir la dragée haute à Jacquet, hein, dans le jeu de but notamment.
Ce jeune de 18 ans là, Xavier.
Dans le physique il est pas mal. Après il faudrait le voir plus dans, avec le ballon ce qu'il peut faire. Mais effectivement, dos au jeu, il est pas mal. Et on a vu Habib Bey qui a repris Jérémy Jacquet assez agacé en lui disant, en lui montrant qu'il avait déjà un carton jaune et peut-être de se calmer un petit peu. Il n'y avait pas forcément besoin d'aller chasser peut-être Prosper Peter si haut. C'est une faute à 40 mètres de la ligne de but de Samba. Hein, donc il faut se calmer un petit peu, effectivement. Il s'en sort bien. Peut-être que Monsieur Bollinger l'a un petit peu dans le collimateur. Il a sorti déjà 3 jaunes, Monsieur Bollinger, sur cette rencontre. Là, il reste 50 secondes encore à jouer. On est côté gauche avec un débordement de Jacques Écommier. Allez, on va peut-être le voir, Peter, avec le ballon. Il n'y a pas hors-jeu. Il est touché dans la surface de réparation. Il va se retourner, il va essayer de passer. Lilian Brassier s'est contré, mais il y a Écommier qui avait suivi. Il faut mettre le retrait, Écommier. Ah, c'est dommage. Il a frappé du droit, alors que peut-être il y avait un retrait à mettre à Sidiki Chérif, qui était un peu plus axé pour essayer de frapper. La frappe est trop écrasée.
Je l'aime bien, moi.
Et facilement capté par Brice Samba.
Oui, joueur. Du foot français, Écommier.
Oui. Du côté des Girondins de Bordeaux, récupéré grâce à la relégation évidemment des Girondins de Bordeaux par Angers. Ils en ont récupéré plusieurs. Ouais. Ils ont récupéré aussi Emmanuel Biumla, un très bon défenseur central. C'est la mi-temps, sifflé à l'instant. 1-0 donc pour le Stade Rennais, ici au stade Raymond Coppa. Le but du faux frère Angevin, Esteban Le Poll, la 21e sur un service de Merlin. 1-0 pour Rennes.
À tout à l'heure, Xavier, d'ici un quart d'heure pour le coup d'envoi de la seconde période. Seb, match plaisant, enlevé, comme on dit parfois. Avantage mérité pour les Rennais?
Ouais, ils ont été plus réalistes, mais c'est vrai qu'en termes de possession, il faudrait vérifier, mais je pense qu'on n'est pas loin des 50-50. Angers, plutôt, ils me surprennent, même s'ils n'ont pas eu véritablement d'occasion nette.
De façon positive
Oui, ouais. Plutôt, ouais, parce qu'on ne va pas rappeler, on l'a dit depuis tout à l'heure, mais que Esteban Le Poll était parti depuis 3 jours et que ça restait quand même leur meilleur attaquant, leur meilleur élément offensif. Voilà, ça reste ouvert, mais on a vu des Rennais plutôt dans la gestion, même sur cette fin de première mi-temps. Qui auront certainement l'occasion de doubler la mise. Mais voilà, le match est loin d'être terminé et Angers aura certainement des opportunités.
Bon, début de réponse d'ici un quart d'heure pour la seconde période de ce Angers Stade Rennais. Je vous rappelle que vous aurez droit à votre multi dans l'intégral foot à partir de 17h autour de Karine Galli et que cette troisième journée de Ligue 1 se conclura ce soir avec l'Olympico, comme on l'appelle désormais, la rencontre entre un Olympique Lyonnais qui a plutôt bien démarré sa saison et un Olympique de Marseille qui aimerait bien penser football et oublier un petit peu les affaires Rabiot et autres. Bon, 1-0 à la pause pour le Stade Rennais sur la pelouse d'Angers. On va voir s'il y a moyen de gagner un petit peu d'argent en seconde période.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et pour ça, on s'appuie sur les conseils de notre expert en paris sportif. Enfin, expert, bon, Tout est question de point de vue. Johan Bretov, qui s'y colle. Salut Johan.
Oui, bah, salut Simon. Je suis bien accueilli. Salut Seb. Salut à tous. Salut. J'adore.
Qu'est-ce que tu as dans ta besace? Voyons, c'est que de l'amour, tu le sais.
Mais bien sûr, dans ma besace, j'ai le doublé d'Esteban Le Poll. Et à 4,10, voilà, la cote est magnifique. Je vous donne les cotes sèches pour cette seconde période. Évidemment, Rennes, avec cet avantage de 1 but à 0, est favori. C'est 1,31 la victoire rennaise, 4,20 le match nul et 10 la victoire d'Angers. Mais voilà, mon pari, vous l'aurez compris, c'est le doublé d'Esteban Le Poll à 4,10. Seb, on joue quoi?
Les deux équipes qui marquent en deuxième mi-temps.
Je vais te calculer ça, donc il faut être créatif pour le faire en seconde période. Donc Angers, et c'est 3,25.
Bah, je vais aller là-dessus, parce que j'ai trouvé un peu fébrile les Rennais par moment quand ils doivent jouer dans la prof, hein, de défendre vers leur but. Et puis après, par contre, ils auront certainement l'opportunité de marquer aussi. Donc voilà, les deux équipes qui marquent.
Et bah, la cote est magnifique, 3,25 donc pour les deux équipes qui marquent.
Et bah, moi j'achète le doublé de Le Poll puisque je ne suis pas allé sur le but sec. Voilà. Alors hein, on va tenter de la martingale. Merci beaucoup Johan. Merci à tout à l'heure. Toutes ces cotes à retrouver sur notre site rmcsport.fr et sur celui de notre partenaire.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
On est à la mi-temps de Angers Stade Rennais. On est quasiment à la mi-course du Grand Prix des Pays-Bas. Il reste quelques dizaines de kilomètres dans le Grand Prix de Plouay et dans la 9e étape de la Vuelta. Comme d'habitude, vous ne manquez rien. Du coup, on va siffler la mi-temps de l'Intégral Sport. On est ensemble en direct jusqu'à 17h en compagnie de Sébastien Piocel. Et on revient pour ne rien manquer d'ici quelques minutes à peine.
RMC Intégral Sport.
Simon Dutin.
À 16h02 sur RMC, vous n'avez rien manqué pendant la pub. Les joueurs font leur entrée sur le stade, la pelouse du stade Raymond Coppa, la seconde période de Angers, Stade Rennais, dans un instant avec Xavier Grimaud, qui lui aussi a fait son retour. On est toujours en compagnie de Sébastien Poussel, notre consultant de la Dream Team. On ira à Zandvoort dans un instant retrouver Jean-Luc Roy pour la suite et la fin du Grand Prix des Pays-Bas, la 15e manche du championnat du monde. Toujours les deux McLaren en tête. On retournera sur les routes de Bretagne, le Grand Prix de Plouay masculin, la 9e étape de la Vuelta, le Tour d'Espagne masculin également. On fera un point là-dessus. On ira voir Félix Gabory également tout à l'heure, parce que les Bleus jouent le 3e match de l'Eurobasket après leurs deux victoires face à la Belgique et face à la Slovénie. À la passe de 3, pourquoi pas face à Israël. On retrouvera Félix dans un instant. Mais avant ça, Xavier, le coup d'envoi de la seconde période entre Angers et le Stade Rennais est imminent. On aimerait voir un match aussi enlevé qu'en première période.
Oui, avec peut-être un petit peu plus de buts. Ça va partir dans un instant avec les 22 mêmes joueurs sur la pelouse, aucun changement. Et M. Bollinger qui va siffler le début de cette deuxième période, donné à l'instant par Moussa Tamari avec Valentin Rongier. 1-0 donc pour le Stade Rennais. Le but d'Esteban Le Poll à la 21e minute, son deuxième but de la saison. Hein, le premier but, c'était ici à Raymond Coppa lors de la première journée avec le SCO face au Paris FC qui avait permis aux Angevins de gagner la première journée. Ensuite, évidemment, c'est une défaite au Parc, mais une défaite honorable avec un but à zéro seulement, la défaite face aux Parisiens et des Angevins qui, franchement, vu le contexte, vu le communiqué, on le rappelait en avant-match d'hier du club, expliquant que les finances empêchaient l'homologation des recrues et que ce sera peut-être comme ça jusqu'à la fin du mercato. Voilà, vu tout le contexte, je trouve que l'équipe angevine a quand même du courage et montre du cœur face au Stade Rennais qui n'est pas complètement, je sais pas si il est dans la gestion mais n'est pas complètement dominateur et je pense peut faire beaucoup mieux. La faute sur Frankowski, donc on va voir comment cette deuxième mi-temps va se passer, si le SCO va continuer d'essayer d'aller chercher ses Rennais, si les Rennais vont réussir surtout à faire le break assez vite. Seb.
Ouais, en tout cas ils auront des possibilités, mais c'est sûr qu'il faut pas qu'ils s'endorment comme ça a été le cas lors des 10-15 dernières minutes de la première mi-temps.
Avec des erreurs techniques aussi, hein. Je parlais de Brassier tout à l'heure, là c'est Roux qui a fait une mauvaise passe pour Frankowski, le ballon est perdu mais récupéré finalement rapidement par les Rennais avec Jérémy Jacquet pour Brice Samba. Jacquet qui est averti, qui est un petit peu nerveux en première période, donc on va surveiller.
On a vu ces duels avec le jeune. On a parlé aussi là pendant la pause. Bah,
Mais forcément, on va guetter ces duels avec Prosper Peter, l'avant-centre du jour du SCO d'Angers. Le ballon dans les pieds de Brice Sambac, les Angevins qui restent très très haut puisque Prosper Peter est en train de presser Brice Samba juste devant son but là, qui va gêner un petit peu la relance de Brice Samba. Est-ce que le deuxième ballon sera gagné par les Angevins avec Raoul Issoa qui va être un petit peu court, sera une touche en faveur de Rennes avec Quentin Merlin. Merlin pour Rongier peut-être. Il n'y a pas une activité folle hein, pour demander le ballon. On est reparti doucement. Jérémy Jacquet qui va ouvrir là-bas côté droit avec Frankowski. Frankowski pour Rouault. Pour l'instant, c'est un petit jeu de passe dans leur propre moitié de terrain, René. Voilà, il y a une passe qui a cassé la ligne avec Seko Fofana qui a du champ. Il adore ça. Il avale les espaces, évidemment. Il va jouer avec Ludovic Blas. Il y a le dédoublement de Seko Fofana. Fofana qui est servi. Oh, une touche pour Ludovic Blas. Blas qui va donner à Rongier, mais c'est gagné par Louis Mouton. Ça revient finalement pour Lilian Brassier qui va peut-être aller à gauche cette fois avec Quentin Merlin qui la demande. Brassier qui va avancer. Il avance encore. Il arrive à 30 mètres du but. La passe pour Quentin Merlin. Qui revient vers Valentin Rongier. 1-0 pour Rennes, la 48e, le but de Lepaule à la 21e. La troisième passe journée. De Jacquet, elle est pas bonne.
Non.
Elle est pas bonne cette passe de Jacquet là, erreur technique encore des défenseurs centraux qui sont pas d'un grand niveau technique. La remontée de balle là de Sidiki Chérif, c'est pas mal avec Peter pardon, à l'entrée de la surface, le bon relais pour Chérif qui va aller chercher le penalty. Bah, il va bien le chercher.
Il va attraper un carton jaune du coup.
Il va le prendre. Il va bien le chercher, ouais. Trop le chercher parce qu'il est dans un angle extrêmement fermé, donc il peut pas réussir à crocheter Brice Samba et il est uniquement obnubilé par l'idée, Seb, de toucher le ballon pour avant Samba pour que Samba le percute éventuellement. Donc
en tout cas, c'était bien joué là hein, sur la récupération dans leur camp. Ils ont été très vite vers l'avant et le relais là était hyper intéressant. C'est bien joué aussi de la part de Samba hein, qu'enlève juste ses mains au ouais. bon moment et qu'il fait déjouer.
Oui, d'ailleurs l'attaquant Jean n'a pas protesté. Il a pas tant cherché le pénalty que ça finalement.
Parce qu'il essaie de crocheter ses oui. missions impossibles.
Il a pas exagéré le plongeon. Moi,
ouais, il se jette quoi. Ouais. C'est juste.
Juste ouais, il a jeté les jambes. Voilà,
tu bon. Peux tenter pourquoi pas un bout du pied qui passe sous le goal. Tu vois là au moins parce que là son crochet c'était impossible de réussir à la récupérer derrière. Bon, je vois pas ce qu'il cherchait à part le pénalty. Quel après carton.
Il se met en difficulté là.
Ouais, la mauvaise relance est récupérée par les Angevins qui peut jouer avec Beldim. La passe de Ousmane Camara, Louis Mouton au but. Va s'appuyer sur Yacine Beldi, mais il faut la mettre dans la boîte, c'est pas mal. Il y a deux Angevins, hein, malheureusement c'est mal donné, c'est capté par Brice Samba qui cette fois va relancer loin. Oh, la relance de Samba, si Tamari va quand même l'avoir et ça va permettre au Rennais de gagner 50 mètres. Moussa Tamari face à deux Angevins, est-ce qu'il va réussir à passer au milieu? Bon, on lui laisse la porte grande ouverte à Moussa Tamari, le retour de Jordan Lefort, il est beau, mais au départ il n'avait pas très bien cadré les choses. Jordan Lefort, il s'est bien rattrapé. 1-0 pour Rennes ici à Raymond Coppa, la 50e.
La troisième journée de Ligue 1 se poursuit sur l'antenne de RMC, vous n'en manquez pas une seconde comme chaque week-end. Elle se poursuit à partir de 17h15 avec le multifoot dans l'intégral foot autour de Karine Galli qui prendra ma place à Monaco-Strasbourg, Paris FC Metz, Le Havre-Nice. Seb, très rapidement, Monaco-Strasbourg, c'est qui gagne?
Monaco.
Monaco qui bat Strasbourg.
Oui.
Paris FC Metz.
PFC.
La première victoire de la saison pour le promu. Le Havre-Nice.
X.
Match nul.
Voilà.
Un match nul qu'on espère pas si nul que ça, évidemment. La réponse 17h15 avec Karine Galli dans l'intégral foot. L'Olympico, évidemment, au LOM, c'est ce soir en clôture de cette troisième journée.
Oh, l'égalisation, Jules ! Oh, quelle est belle ! La belle histoire pour Prosper Peter, 18 ans, le jeune du centre de formation. On attendait de voir ce qu'il valait avec le ballon et dans le sens du but. Lui, l'avant-centre, et bien son but, il est magnifique, Seb, avec l'excellent dédoublement de Yacine Beldi, mais le centre il est parfait. Premier poteau, la tête rageuse de Prosper Peter, ça fait un partout. Il a du caractère, il a du cœur quand même ce SCO d'Angers dans sa situation. Ah, magnifique but des Angevins.
En plus ils arrivent à créer le décalage. Alors, ils sont en infériorité hein, des Angevins là sur l'action et le centre il est parfait. Tout à l'heure on parlait d'Esteban Lepaul qui piquait au premier poteau. Voilà, c'est pareil, sauf que le ballon était en hauteur. Ben, ce coup-ci c'est Peter, ce qui est plus jeune peut-être, mais qui est là pour mettre la tête et venir offrir l'égalisation à Angers.
C'est un 2007 hein, Prosper Peter, ouais. Il a 18 ans, il est tout jeune et on soulignait son bon début de son bon comportement en début de match, mais notamment dans le jeu sans ballon ou dos au but. Là c'est un vrai but d'avant-centre, il fait un bon appel, le centre est bon, mais il est là pour conclure de la tête autoritaire. Superbe but hein, Xavier.
Ouais, quatrième match en Ligue 1 seulement pour lui, première titularisation pour le jeune Prosper Peter. Ouais, comme tu l'as dit, c'est un 2007 né à Paris qui a commencé en banlieue nantaise. C'est son école de foot avant de rejoindre le SCO d'Angers assez jeune puisqu'il a il arrive à 14 ans ici du côté du SCO. Et ouais, c'est la belle histoire. Le Angers qui doit s'appuyer.
Tu l'as le club sur, ou pas de la banlieue nantaise ou
ouais, c'est à Bellevue. Il était à Bellevue.
Super, d'accord. Ouais. Il travaille très très bien.
Attends, il y en avait un autre avant que tu dois connaître parce que j'ai regardé, c'est en l'Étoile du Sens.
Voilà, ouais,
Étoile
ça
du te sens, parle
ouais, bien sûr.
Et la JSC Bellevue de 2020 à 2022 pour Prosper Peter. Et franchement, c'est vraiment un très joli but pour lui, pour l'avancante de 18 ans. Et c'est intéressant parce que les Rennais, on le disait, ils étaient un peu trop dans la gestion. C'est une équipe qui doit faire beaucoup mieux avec évidemment l'effectif qu'il a face à une équipe qui a beaucoup moins de moyens comme le SCO d'Angers. Là, ils vont être obligés de se montrer, les Rennais, d'en faire plus. Et mais ça, c'est intéressant.
C'est ce qu'on disait un petit peu depuis là, on va dire quasiment l'ouverture du score, c'est qu'on a une équipe de Rennes, oui, qui a la possession sans non plus que ce soit flagrant, et puis qui joue un peu sur le même rythme à chaque fois, il ne crée pas de décalage, et du coup bah, ça laisse des possibilités à Angers. Et quand on joue bien les coups comme ça, bah, voilà, du coup pour eux, compliqué maintenant de se remettre vers l'avant. En tout cas, ils sont obligés de jouer différemment s'ils veulent repasser devant.
Oui, parce que finir le mois d'août avec 6 points sur 9, c'est pas la même que de finir avec seulement 4 points ayant joué Lorient et Angers, deux équipes qui normalement auront plutôt tendance à lutter pour le maintien qu'autre chose. Donc c'est important évidemment avant la trêve pour les Rennais de basculer du bon côté. Et on louait la volonté de l'équipe d'Alexandre Dujeu d'ouvrir, voilà, de pas fermer à double tour comme ils peuvent le faire parfois face aux gros notamment. Et bravo à eux, et pour l'instant ils sont récompensés. Et Alexandre Dujeu d'ailleurs, il a fait tomber la veste et maintenant en t-shirt. Il y a eu un coup de chaud aussi sur le but de Prosper Peter, son jeune avant-centre. Le ballon est dans les pieds Angevin notamment, et assez étonnamment les Rennais ne pressent pas vraiment et laissent le ballon aux Angevin. On est à 50-50 au niveau de la possession. Les prochaines minutes vont être très intéressantes à suivre, avec attention pas perdre le ballon ici pour Jacques Écomier. C'est bien sorti, Ousmane Camara avec Belkebla, l'Algérien qui est le capitaine là, qui est pressé, bien défendu par Ludovic Blas, qui va obtenir la touche. Il aura la touche, Ludovic Blas, qui n'a pas rechigné, il a essayé d'aller récupérer le ballon et la touche en faveur de Frankowski, qui peut jouer pour Anthony Rouault, battu par Prosper Peter sur l'égalisation Angevin, avec Lilian Brassier qui remonte le ballon. Il y a Seko Fofana qui la demande, mais il est suivi par Belkdim, donc on ne va pas pouvoir lui donner, avec toujours le marquage individuel de Belkebla sur Ludovic Blas là, qui demande le ballon. Est-ce qu'il va être servi? On va chercher Lepaule dans l'axe. Oh, la remise d'une touche de Lepaule, c'est super, ça accélère le jeu avec Valentin Rongier. Oh, la passe de Rongier par contre, elle n'est pas bonne. Techniquement, les leaders sont pas forcément là.
Il aurait dû servir de l'appel à l'intérieur. Il y avait Quentin Merlin complètement seul à gauche.
Attention à la remontée de Sidiki Chérif, avec Prosper Peter qui tente les passements de jambes. Il a été un petit peu gourmand et ce sera un petit peu, mais il faut pourquoi pas dribbler, oui. Alors qu'il y avait Raoul Issoa qui avait dédoublé, le ballon récupéré par les Rennais. La 55e, un partout entre Angers et Rennes. Lepaule a marqué pour Angers, non, pour Rennes évidemment, il a signé à Rennes il y a 3 jours. Et à la 51e, Peter, le jeune avant-centre du centre de formation, 18 ans, qui marque son premier but en Ligue 1.
Et de belles histoires pour les deux clubs, un partout. Donc à tout de suite, Xavier, on va faire un tour du côté de Zandvoort, le Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas. Jean-Luc, c'est la catastrophe pour les Ferrari.
Ah, on peut le dire comme ça, effectivement, Simon, puisque après son arrêt au stand, eh bien Charles Leclerc a quitté la piste. On avait décidé de l'arrêter parce qu'effectivement, il ne pouvait pas faire grand-chose dans la position qui était la sienne. On était à 20 tours de l'arrivée, là au 52e des 72 tours. Donc il est repassé par la voie des stands. On lui a monté des pneumatiques soft et malheureusement, il a quitté la piste. Donc dès qu'il est revenu, apparemment, il s'est un peu frictionné, semble-t-il. On va voir le détail dans un instant. En tout cas, la Ferrari est abandonnée au bord de la piste. On a sorti évidemment le safety car du côté de la direction de course et tous les pilotes profitent de cette neutralisation pour repasser par la voie des stands et chausser pour la majorité des pneumatiques slick, puisqu'il va rester à peu près 16 à 17 tours à parcourir. Et oui, c'est Antonelli qui est venu heurter effectivement à l'arrière gauche la Ferrari de Charles Leclerc. Petite erreur là du rookie italien, oui, c'est très clair, à l'entrée toujours de ce fameux virage numéro 3, le banking. Ah oui, non, là Charles n'y était pour rien du tout.
c'est une tentative de dépassement d'Antonelli qui était lui en pleine piste évidemment, qui a essayé de profiter du fait que les pneumatiques peut-être n'étaient pas totalement en température. Et sa trajectoire, alors qu'il a plongé tout à fait à l'intérieur du banking, l'a amené à percuter la roue arrière gauche de la Ferrari. Décidément, oui, c'est la Bérésina pour la Scuderia Ferrari, comme tu le disais, Simon.
Tomber, ça ne va pas contribuer à nous mettre Charles Leclerc de bonne humeur. On le savait un petit peu agacé ces dernières semaines. À tout à l'heure, Jean-Luc. Oui, à petit détour par la Bretagne, où il fait meilleur qu'aux Pays-Bas, ma chère Maria Azé, pour la Bretagne Classique CIC, l'ancien Grand Prix de Plouay. Où en sont les coureurs?
Il fait meilleur qu'aux Pays-Bas, mais ça se noircit un petit peu dans le ciel, Simon. La pluie ne devrait pas tarder à s'abattre. On sait, c'est les 5 saisons dans une journée en Bretagne. On l'a vécu hier. 52 km de l'arrivée ici à Plouay. Un homme en tête, le Danois Kasper Asgreen, qui a 1,06 d'avance sur le peloton. Mais l'écart ne cesse de se réduire depuis quelques minutes, notamment sous l'impulsion des lotos d'Arnaud Delis dans le peloton et des Tudors de Julien Alaphilippe et de Marc Hirschi, le vainqueur sortant. Voilà, on ne devrait pas tarder à voir les quelques vainqueurs, les quelques favoris attaquer, hein, tenter quelque chose avant l'arrivée dans la côte de Martha. On est à 51 km de l'arrivée, il reste environ 30 km avant ce petit col répertorié. Kasper Asgreen, voilà, aussi entre 1,05 et 1,07 d'avance sur le peloton. Ça devrait encore se réduire dans les prochaines minutes à 51 km de l'arrivée.
À tout à l'heure, Maria, pour la suite et la fin de cette Bretagne Classique CIC, l'ancien Grand Prix de Plouay. En Espagne, qu'est-ce que ça donne, Johan Bredov, la 9e étape de la Vuelta, cette fameuse course de côte dont la victoire est promise au baroudeur?
Au baroudeur, non, ça va se jouer, je pense, et j'en suis quasi sûr, avec les favoris pour le classement général, parce on est à 33 km de l'arrivée. Je le disais tout à l'heure, il y a 5 hommes en tête, mais qui ne possèdent plus que 1 minute et 32 secondes d'avance sur le peloton, emmené par les Lidl Trek qui travaillent, eux, pour Giulio Ciccone, leur leader. On a également l'équipe du leader, hein, du classement général, c'est Thorsten Strain qui va essayer de garder cette avance de 2 minutes et 33 secondes sur Jonas Vingegaard. On a également vu la Q36.5, cette équipe suisse qui travaille pour Tom Pidcock. Donc voilà, ça va se jouer entre les favoris du général, 32 km avant l'arrivée, et dans 19 km exactement, ce sera le début de cette ascension, et donc l'arrivée à Val d'Escaray, la station de ski, une des nombreuses arrivées au sommet de cette 80e Vuelta.
C'est ça, le cyclisme de la génération Bredov, c'est les favoris qui ne laissent aucune miette, même aux baroudeurs qui veulent la victoire, même lorsqu'il n'y a qu'une petite côte à l'arrivée. À tout à l'heure, Johan. Un petit pain, temps et score du côté du stade Raymond Coppa entre Angers et le stade Rennais, Xavier Grimaud, la 3e journée de Ligue 1.
Ouais, la 59e minute, les Rennais qui essayent d'accélérer parce qu'ils se sont fait rejoindre un partout entre Angers et Rennes. Le but de Lepol pour les Rennais et l'égalisation de Peter pour les Angevins. Elle a eu des situations avec un centre de la droite, un centre de la gauche de la part des Rennais, à chaque fois capté par Hervé Coffi. Mais ils ont accéléré un petit peu le rythme, les Rennais. Il est temps, puisque maintenant ils ne sont plus devant. Un partout, on joue l'heure de jeu à Raymond Coppa.
Seb, qu'est-ce que ton flair t'indique pour le dénouement de cette rencontre?
Je pense que Rennes, ils sont en capacité quand même de repasser devant.
Bon, la réponse.
Il y a Kader Meïté va entrer, d'ailleurs, à la place de Moussa Altamari, qui a été très discret. Hein, effectivement,
il ne faudrait pas qu'il prenne un rouge après Rennes, parce que du coup, à chaque fois, Meïté sort. Donc,
Là, il va avoir 30 minutes. C'est bien. C'est bien, Kader Meïté. Un partout entre Angers et Rennes.
A tout de suite, Xavier, pour la suite et la fin de la seconde période entre Angers et Rennes, le foot, le cyclisme. La Formule 1 et dans un instant le basket. Vous ne manquez rien, évidemment, sur RMC. L'Intégral Sport revient dans quelques secondes.
RMC Intégral Sport,
Simon Dutin.
16h23, de retour sur RMC Intégral Sport en direct jusqu'à 17h, avant de passer la main à Karine Galli pour l'Intégral Foot et la suite de la 3e journée de Ligue 1 avec le multi Monaco-Strasbourg, Paris FC Metz et Le Havre-Nice avant l'Olympico LOM en clôture de cette 3e journée. Dans un instant, on parlera de basket, le 3e match des Bleus à l'Euro à France-Israël après les 2 victoires contre la Belgique et la Slovénie. On file au stade Raymond Coppa dans un instant pour la suite et la fin de la seconde période entre Angers et Rennes. Et on garde un œil avec Jean-Luc Roy sur le Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1. Avant ça, je vous rappelle que l'innovation pour vous les auditeurs de RMC de la rentrée, c'est que l'antenne, la maison, a désormais un profil WhatsApp. Vous rentrez le 06 12 424 424 dans votre téléphone comme un nouveau contact. 06 12 424 424. et vous nous écrivez sur WhatsApp. On reçoit directement vos messages en studio. C'est pour solidifier ce lien entre vous et l'antenne, qui est l'une des promesses de RMC. Je salue Timothée, Hugues, Adrien, Bastien, Maxime, Cédric, Ethan, Dadou, Gaspard, Ruffier, supporter des Girondins, qui salue la première victoire de Bordeaux cette saison. Kimble, qui est attentif, qui est devant sa télé, qui suit cette rencontre entre Angers et Rennes. Patrick, qui nous écoute depuis Saint-Domingue, depuis toujours. Gaëtan, qui se demande si ça va remplacer Direct Studio. Non, Direct Studio existe encore. Mais le WhatsApp, c'est super pratique. On a une belle tablette toute neuve pour la rentrée. Et on adore vos messages. Et vos messages bienveillants. Enfin, Sébastien Piocelle a écrit pour dire qu'il adorait Sébastien Piocelle. Vous voyez, on peut tout écrire sur la messagerie WhatsApp. Et en tout cas, on vous remercie de l'attention et de votre fidélité à l'antenne. Xavier Grimaud, Stade Rennais, Angers, Stade Rennais. Où en sont les deux équipes après la belle égalisation en juin?
Toujours 1-0 entre le SCO et le Stade Rennais. Les Angevins qui débordent la côté droit. Le centre peut-être à venir de Raoul Isson. Ah, Louis Moutin, ça passe juste à côté. Énorme situation pour les Angevins qui se procurent de bien plus belles occasions que les Rennais. J'ai cru que ça partait dans la lucarne opposée là, sur ce centre, sur le débordement de Carlen Sarcus. Et Louis Mouton qui était seul au premier poteau, et sa reprise du droit qui passe assez loin, début de Samba, mais il était vraiment dans une zone très dangereuse pour les Rennais. C'est compliqué,
Ça ressemble un peu au premier but dans le développement de l'action, encore une fois côté gauche, côté Quentin Merlin. Il y a un peu d'espace là, sauf que là le ballon était plutôt en retrait, et c'est le geste de Mouton de vouloir jouer en une seule touche. Et
il la met à l'intérieur du pied en plus, c'est ouais. Coquin, hein, c'est pas mal, ça peut,
ouais, elle si c'est, pas, elle, si elle c'est pas cadré simple, elle est pas simple à reprendre, mais en tout cas bien amené encore une fois, surtout dans leur couloir droit.
Ouais, c'était bien tranchant, alors que du côté de Rennes, on a le ballon, ça fait circuler de droite à gauche, mais il n'y a pas du tout de profondeur et pas du tout d'accélération dans les 20 derniers mètres. On a juste vu une frappe de Blas qui est un peu symbole peut-être du désespoir rennais. Désespoir, c'est un peu fort, mais au moins du manque de solution. C'est une frappe de Blas qui était à 25 mètres, trop écrasée, captée par Kofi en deux temps. Il y aura un changement du côté du SCO avec la sortie de Louis Mouton. On va mettre un profil un peu plus défensif avec l'entrée de Marius Courcoul, lui aussi jeune joueur formé au club, l'entrée de Jim Alevina, l'ancien joueur de Clermont qui va entrer, et également Laurent Machine, l'enroi Machine, pardon, qu'on ne connaît pas beaucoup non plus, parce que lui aussi 19 ans, attaquant formé au club, qui va avoir droit à quelques minutes. Alevina va remplacer Sidiki Chérif, et Machine va peut-être remplacer Prosper, le buteur, Prosper Peter, le buteur du jour. Ouais, c'est ça, c'est Prosper Peter qui va sortir. Il aura réussi sa première titularisation en Ligue 1, le gamin de 18 ans du côté du SCO. Intéressant dans le jeu, intéressant dans le combat, puisqu'il a pris le dessus souvent face à Jérémy Jacquet, qui est quand même un client physiquement, et surtout, magnifique finition de la tête. Son premier but est splendide. Il va pouvoir garder la vidéo, Prosper Peter.
Et il est félicité. De façon très sympa par son entraîneur, évidemment ravi de la prestation de ce jeune joueur de 18 ans. On revient dans un instant, Xavier, on profite de ce changement pour aller demander à Jean-Luc Roy si les McLaren sont toujours en tête du Grand Prix des Pays-Bas, à moins de 10 tours de l'arrivée, Jean-Luc.
Absolument, Simon. Nous sommes dans le 63e des 72 tours de ce Grand Prix disputé dans les dunes de Zandvoort. Et il y en a un qui observe le Grand Prix depuis une des dunes, justement. C'est Charles Leclerc, tu t'en doutes. Après l'accrochage avec Antonelli tout à l'heure, eh bien, il s'est assis sur une dune à l'intérieur du virage numéro 3. Et il observe le passage de ses adversaires directs, et notamment celui d'Oscar Piastri, toujours leader de ce Grand Prix. Effectivement, les pilotes sont repassés naturellement par la voie des stands en profitant du safety car tout à l'heure dans le courant du 54e tour. Piastri et Norris, les deux McLaren, donc ont chaussé des pneumatiques durs. On a choisi la sécurité du côté des Papaya, et ma foi, ça l'a réussi très bien. Il y a une seconde et demie à peu près d'écart entre les deux hommes, et on a dit à Norris d'ailleurs tout à l'heure, avant l'accident de Leclerc, qu'il fallait qu'il aille chercher Piastri s'il voulait gagner, puisque normalement il ne se passait plus rien de prévu, pas d'arrêt au stand, et a priori la météo est comme confirmé, la pluie ne viendra pas interrompre ou tout au moins modifier le cours de ce Grand Prix avant son terme. Donc les deux McLaren s'acheminent a priori vers la première et la deuxième place. Derrière, on a Verstappen qui a fait une options différentes. Lui, quand il s'est arrêté au stand, on a choisi les pneumatiques soft, les plus tendres, pour tenter une attaque. Il a bien essayé, dans le tour de relance, de se rapprocher de Norris, mais ça n'a pas fonctionné. Verstappen est donc maintenant 3e à 4 secondes et demie de la 2e des McLaren. On a toujours en 4e position très solide Isaac Hadjar avec la première des Racing Bull. Lui aussi est chaussé de pneumatiques soft, 4e donc devant Russell. Russell a récupéré la 5e place évidemment après l'accident de Charles Leclerc tout à l'heure. Il est avec sa Mercedes devant Albon. Alors Albon, c'est la remontée du siècle. Lui, il est parti 15e. Il a chaussé des pneumatiques soft et il est 6e pour le moment dans le sillage de la McLaren, de la Mercedes, pardon, pour la 5e place. Antonelli est 7e. Alors lui, c'est la cause évidemment de l'accident tout à l'heure puisque c'est lui qui a heurté Charles Leclerc. Et il est sous le coup de deux pénalités. Une de 10 secondes pour l'accident et une de 5 secondes pour avoir été trop vite dans la voie des stands. Tu vois, décidément, quand ça s'en mêle, ça veut dire que Berman réaliserait également un exploit parce que Berman est parti de la voie des stands. Il est pour le moment 8e et avec les pénalités d'Antonelli, il pourrait terminer 7e devant un Alonso revenu dans les points et Gasly qui pourrait peut-être récupérer le point de la 10e place après. Donc oula, je vois de la fumée derrière des McLaren.
C'est Lando Norris.
C'est
terminé pour Norris.
Il y a des problèmes. Ouais, je me suis demandé si c'était effectivement le fait. Et non, il est arrêté. Et bah décidément, quel Grand Prix. Et Lando Norris, voilà, qui s'arrête sur le bord de la piste, ici, dans les dunes de Zandvoort, avec un problème mécanique manifeste. Dans un premier temps, je me suis demandé, tu sais, quand les monoplaces talonnent très durement dans les bosses, ça soulève un nuage de fumée. Mais là, c'est beaucoup plus grave, évidemment. Un problème mécanique pour Lando Norris, qui ne verra pas le drapeau à damier. Bah voilà, qui va considérablement creuser l'écart en faveur bien sûr d'Oscar Piastri. Verstappen va monter sur la 2e place du podium et Hadjar pourrait très bien avoir son premier podium, premier podium de sa carrière de pilote de Formule 1 avec la Racing Bull.
En tout cas, tu soulignais à juste titre en début de course que les positions en qualification sont déterminantes pour l'arrivée, parce que sauf incident mécanique, on a Piastri qui était parti en pole, Verstappen qui était derrière Norris, Hadjar qui était 4e, tout ce petit monde qui est remonté suite à l'abandon de Norris, mais toujours aussi difficile de doubler sur ce circuit si étroit. À tout de suite, Jean-Luc, pour l'arrivée et le dénouement de ce Grand Prix des Pays-Bas qui devrait voir la nouvelle victoire d'Oscar Piastri, le leader du championnat du monde. La confirmation dans quelques minutes. Est-ce qu'on peut aller faire un point du côté de la Bretagne pour le Grand Prix de Plouay? Est-ce que Maria Azé est avec nous? Maria, est-ce que tu nous entends?
Oui, Simon, je suis bien là, 40 km de l'arrivée ici à Plouay. Casper Asgreen qui n'a plus qu'une petite trentaine de secondes d'avance sur le peloton. Ça va revenir les UAE. On a vu Tim Wellens mener ce peloton il y a quelques secondes, notamment pour son leader Isaac Del Toro. On a aussi vu Julien Alaphilippe bien placé en tête de ce peloton, caché derrière là, voilà, le deuxième, troisième place du peloton. On imagine bien voir notre Français tenter quelque chose dans cette Bretagne classique qu'il aime beaucoup. Voilà Julien Lapilippe qui va essayer de se montrer après un Tour de France un peu plus compliqué. On est à 39-40 km de l'arrivée et Casper Asgreen qui n'a plus que 28-29 secondes d'avance sur le peloton.
Casper Asgreen, un des grands baroudeurs du peloton. À tout à l'heure, Maria, les baroudeurs qu'on a pensé être à la fête dans la 9e étape du Tour d'Espagne, la Vuelta, Johan Bredov. Mais tu nous confirmes que ce sont les favoris, les gros chiens du peloton qui vont se disputer la victoire.
Je te laisse maître de tes propos.
top, disent nos amis anglais.
Ben, on est à 20 km de l'arrivée et je te confirme que ça va se jouer entre les favoris pour le classement général. Les 5 hommes de tête ont toujours un petit peu d'avance, mais c'est tombé sous la minute. 53 secondes d'avance seulement sur le peloton maillot rouge. Donc le maillot rouge porté par le Norvégien Thorsten Tren, qu'il avait pris à l'issue d'une échappée sur la 6e étape où il avait terminé deuxième. Et là, dans 5-6 km, le début de l'ascension finale, la montée vers la station de ski de Val d'Escaraille où les favoris vont s'écharper.
Le deuxième, l'étrangement, position de hors-jeu. Il met trois plombes à lever.
lever son drapeau. C'est incroyable. Au départ de l'action, il prend vraiment aucun risque, l'arbitre assistant. Des fois qu'il y aurait but derrière, bah c'est le cas. On va vérifier ça. Incroyable. Ils se font peur, les Rennais.
Ça paraissait évident.
Ça paraissait évident, c'est pour ça. En tout cas, ils se font peur. Seb les Angevins, les Rennais, ils se font très très peur. On a vu une passe en retrait mal négociée par Frankowski tout à l'heure avec une frappe de Leroy Machine qui est passée à côté. Et là, c'est Raoul Issoa qui avait bien ouvert son pied. Il y a bien position de hors-jeu. Avertissement sans frais, mais ils sont pas au niveau. Ils sont pas au niveau où ils veulent être, les Rennais, ça c'est certain. Un partout entre Angers et Rennes. Et la 76e, on a vu juste une frappe de Quentin Merlin tout à l'heure, a claqué en corner par Hervé Coffi. Un partout.
Méfiance, méfiance pour les Rennais qui pourraient bien laisser échapper la victoire et voir concéder la défaite face à des Angevins. Séduisant cette jeune équipe d'Angers à qui on promettait une saison si difficile en Ligue 1. La suite et la fin de cette rencontre dans un instant dans l'Intégral Sport. On revient dans quelques secondes à peine avec le dénouement du Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas. Vous ne bougez pas.
MC Intégral Sport.
Simon Dutin.
À 16h36, la dernière ligne droite de l'Intégral Sport est ensemble en direct jusqu'à 17h en compagnie de Sébastien Piocelle, autour notamment de Angers Stade Rennais et non l'inverse. La suite de la troisième journée de Ligue 1 se poursuit à partir de 17h15 avec le multifoot dans l'Intégral Foot autour de Karine Galli. Avec, tu sais qui est le consultant de Karine Galli? Moi j'ai Sébastien Piocelle. Tu sais qui est là, Karine?
Ah oui, hein?
Jean-Pierre Papin,
ah oui.
The Legend,
magnifique.
JPP, magnifique. Désormais consultant pour RMC, la légende du football français, Ballon d'Or 1991. Donc consultant de luxe autour de Karine Galli dans l'Intégral Foot pour le Multi Monaco Strasbourg, Paris FC Metz et le Havre Nice. On n'oublie pas l'Olympico LOM en clôture de cette troisième journée avec Jean-Louis Tour au commentaire, l'after live évidemment, l'after derrière avec Gilbert Bribois. Dans un instant, le dénouement du Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas avec Jean-Luc Croix qu'on retrouve dans une minute. Avant ça, Xavier Grimaud, les Rennais, ils vont peut-être finir par concéder la défaite face à des Angevins qui jouent leur chance là.
Hein. Ah ouais, en tout cas, les plus grosses occasions, elles sont angevines. Alors oui, le ballon est Rennais, mais franchement, c'est assez stéréotypé hein, ce que nous montrent les Rennais. Et les Angevins, eux, arrivent à prendre des espaces et à se montrer dangereux. Et malgré la défense à 3, qui est quand même logiquement bien dense du côté de Rennes, ils arrivent à se mettre en excellente position. Ils continuent de jouer. Là, il y a des espaces. C'est bien ce qu'ils font avec la relance d'Arcus, Belkebla pour Courcoul. On est côté droit, le petit relais, crochet intérieur de la part d'Arcus, on va revenir de la part de Raoul Issoa, on va revenir avec Beldim pour Belkebla et on va repasser derrière vers Ousmane Camara. Donc ce sera un match très intéressant de la part du SCO. On pouvait avoir peur pour eux évidemment avant cette rencontre, non pas que Rennes soit un épouvantail, mais de par manque de force en puissance.
Sur ces trois premières journées, parce qu'il faut rappeler quand même la courte défaite au Parc, c'est cohérent avec le budget qu'ils ont. Voilà, il y a beaucoup de jeunes joueurs, certains qui ont très très peu d'expérience en Ligue 1, et je trouve que ce qu'ils font c'est très très cohérent dans le jeu avec et sans ballon.
Ouais, amené par l'entraîneur Alexandre Dujeu qui est un très bon entraîneur qui l'a montré et qui a d'ailleurs été prolongé par Angers il y a quelques semaines. Et Kader Meïté, il fait une bonne entrée hein, le jeune Kader Meïté, bien plus impactant en quelques minutes que Moussa Altamari qui était complètement absent de par son physique. Il fait gagner des mètres et là il y aura une bonne touche proche de la surface de réparation pour Frankowski qui peut peut-être la jouer longue à moins qu'il va la jouer court avec Valentin Rongier pour Frankowski à nouveau pour Rongier pour Rouault. Et on va tourner vers Jérémy Jacquet. Il y aura un double changement à venir pour les Rennais avec l'entrée de Mikhaïl Fay, le défenseur central, et Djaoui Cissé, le jeune milieu de terrain. Fay, j'ai l'impression que c'est peut-être Jérémy Jacquet qui va sortir. On va suivre ça. En tout cas, il reste que 10 minutes à jouer. Et pour l'instant, le Stade Rennais est tenu en échec ici à Angers. Un but partout. On rappelle, Esteban Le Pall a marqué en première mi-temps à la 21e. L'égalisation du jeune Prosper Peter à la 51e.
On revient dans quelques secondes, Xavier, pour suivre avec toi la fin de cette rencontre entre Angers et Rennes. Mais avant ça, peut-être un bout d'histoire du sport automobile français qui s'écrit sous les yeux de Jean-Luc Roy au Grand Prix des Pays-Bas. Parce que si Piastri semble lancer vers la victoire, Hadjar, notre jeune Français, pourrait connaître dans quelques instants son le premier podium de sa prometteuse carrière, Jean-Luc.
Absolument, Simon, avec un Grand Prix impeccable. Il n'a commis aucune erreur. Et là, évidemment, l'abandon de Norris va le faire avancer d'un cran. Comme tu le soulignais tout à l'heure, les positions étaient relativement identiques depuis le départ de ce Grand Prix, puisque les possibilités de dépassement sont assez limitées sur ce tracé de Zandvoort, à part la grande ligne droite. Maintenant, le DRS a été autorisé à nouveau par la direction de course, après le feu vert, après la remise en course, hein, en piste, après cet abandon de la McLaren de Norris, qui était prostré d'ailleurs, assis sur une dune. Il avait il tenait le casque avec les deux mains. Il était vraiment consterné par ce qui lui est arrivé à quelques tours de l'arrivée. Voilà qui peut être effectivement un des tournants, sinon le tournant du championnat dans la bataille pour le titre, puisque Oscar Piastri, qui maintenant n'a plus qu'un tour à effectuer avant de triompher ici dans les dunes de Zandvoort, il succéderait justement à Lando Norris, qui s'était imposé l'an dernier à cet endroit. Et puis derrière, eh bien, tu le disais, Verstappen va normalement monter sur la... Je dis normalement parce qu'il peut encore y avoir un problème. Voilà, nous entrons maintenant dans le dernier tour de ce Grand Prix. Eh bien, Isaac Hadjar va réaliser l'exploit de sa première saison en Formule 1 pour son 15e Grand Prix, après une superbe qualification sur la deuxième ligne de la grille de départ, le 4e temps. Eh bien, il va mener sa Racing Bull, si tout va bien maintenant, à quelques centaines de mètres, moins de 4 km à parcourir. Il va monter sur le podium de ce Grand Prix de Hollande, ce qui est un véritable exploit, parce que ça a été piégeux, hein, ça a été compliqué, ça a été difficile. Il y a eu beaucoup d'interruptions, beaucoup de modifications. La piste a même été un petit peu grasse, un petit peu mouillée à un moment. Eh bien, il a su éviter tous les pièges tendus par ce tracé de Zandvoort, donc tout près de la mer du Nord. Oscar Piastri maintenant, encore quelques virages à négocier, seulement 4 ou 5 virages. Il n'est pas sous la menace de Verstappen. Pourtant, la Red Bull de Verstappen est équipée de pneumatiques soft, hein, depuis l'arrêt tout à l'heure au stand, depuis la neutralisation consécutive à l'accident de Charles Leclerc accroché par Antonelli. Eh bien, il va parvenir à maintenir un écart d'un peu plus d'une seconde 3 devant la Red Bull. Donc une victoire magnifique pour Oscar Piastri, qui va conforter évidemment sa position au classement général provisoire du championnat du monde. Oscar Piastri qui va remporter ici la 9e victoire de sa carrière, ce qui le met au niveau de son équipier Lando Norris. Voilà, victoire de Piastri, 2e place pour Verstappen qui s'en est bien sorti, et superbe succès pour Isaac Hadjar, donc le Français qui monte sur un podium avec la Racing Bull. Fantastique course de Isaac Hadjar, 3e, premier podium de sa carrière, le pilote de Formule 1, pour son 15e Grand Prix. Il devance George Russell avec la Mercedes, 4e, Albon est 5e avec la Williams. Une très belle remontée d'Albon, je répète qu'il est parti 15e. Et puis on a ensuite Burman, lui aussi est parti de la voie des stands. Il va terminer 6e avec la Haas. Et puis Stroll 7e, Alonso 8e, Tsunoda qui entre dans les points 9e, et Ocon qui va ramasser le point de la 10e place. Ocon qui est parti très loin également, 18e sur les grilles. Mais on retiendra également ce magnifique podium d'Isaac Hadjar, le premier de sa carrière de pilote de Formule 1 pour le jeune rookie français.
Formidable performance donc du pilote français qui découvre cette saison la Formule 1. Et parfois on dit sur la pointe des pieds, mais lui c'est à fond sur le champignon. Premier podium pour sa première saison, Isaac Hadjar. Peut-être qu'il ne va pas rester dans l'écurie satellite très longtemps, Jean-Luc. Bon, peut-être que ça va attirer les convoitises des grandes écuries ou de la maison mère, qui sait.
Alors, c'est le bruit qui court, effectivement. On en parle même depuis plusieurs Grands Prix, hein, puisque Yuki Tsunoda, même si le jeune japonais est entré dans les points, là, enfin, je dirais, avec la Red Bull. Bon, il l'a déjà fait, mais là, il était temps qu'il s'y mette vraiment. Pour le moment, c'est stand-by, hein, c'est statu quo. On a dit du côté de Red Bull, donc du côté du docteur Helmut Marko. Tu sais que c'est le français Laurent Mekies, bien sûr, qui a pris les rênes de l'écurie après le départ, effectivement, du team manager. Récemment, on l'a viré d'ailleurs, hein, juste après Silverstone. Oui. Et donc, a priori, on devrait rester comme ça jusqu'à la fin du championnat, et tant mieux, parce que Hadjar bénéficie d'une très bonne voiture, hein. Je me demande si elle n'est même pas meilleure que la deuxième des Red Bull pour le moment, ce qui lui permet de réaliser cet exploit. Maintenant, pour l'an prochain, tout est ouvert, comme tu le soulignais, effectivement. Le contrat d'Hadjar, pour le moment, ne portait que sur la saison 2025, mais on peut, là, franchement, parler d'un très, très beau succès, d'un très, très beau parcours, et ce premier podium, effectivement, le conforte. Alors, est-ce qu'on va le faire monter dans l'écurie de pointe aux côtés de Verstappen, qui va rester pour 2026? La question reste entière. Est-ce qu'il faut même le souhaiter, compte tenu des difficultés qu'éprouvent les différents pilotes qui se sont succédés, hein. On rappelle que Doohan a été brutalement remplacé, Liam Lawson déjà dans un premier temps. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de monde, et Doohan, c'est du côté d'Alpine bien sûr, mais Doohan, ça a été dur pour certains rookies, on va dire, depuis le début de la saison. Ouais. Et Hadjar s'immobilise, voilà, maintenant sur la ligne de départ et d'arrivée, aux côtés donc d'Oscar Piastri, le vainqueur, et de Max Verstappen, soutenu par tout le public. Il y a eu plus de 300 000 spectateurs pendant ce week-end à Zandvoort, ici, et on sait qu'a priori, malheureusement, les jours de ce Grand Prix ont l'air comptés. Dollars exige, Simon.
Le premier podium de la jeune carrière d'Isaac Hadjar, troisième du Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1, derrière Max Verstappen et Oscar Piastri, plus que jamais leader du championnat du monde après cette nouvelle victoire. Lando Norris, vainqueur l'an dernier et principal adversaire de Piastri, a dû abandonner dans les derniers tours. Isaac Hadjar, dont il sera certainement question, évidemment, dans le prochain numéro du Paddock RMC, notre podcast des sports auto. Merci beaucoup, Jean-Luc, de nous avoir fait vivre ce Grand Prix des Pays-Bas. Plaisir partagé, évidemment, et à très vite sur l'antenne de RMC. Retour au foot, au stade Raymond Coppa, Xavier Grimaud, Angers, stade Rennais. Messieurs, un partout, j'ai quand même envie de vous interroger. On a loué la belle capacité de réaction des Angevins, à qui on promettait un match compliqué après avoir concédé l'ouverture du score. Xavier, ne te fâche pas, mais il va quand même falloir instruire le début de saison d'un stade Rennais qui ne montre pas grand-chose quand même. Il y a eu cette victoire un petit peu inespérée contre l'OM à 10 contre 11, mais en termes de foot, de contenu, c'est un peu insuffisant, non, tout de même?
Ah non, mais tu me fâches pas du tout, je le disais, hein, Rennes n'est pas du tout ne fait pas du tout la prestation qu'il est censé faire de par ses ambitions et de par le discours de tout le monde au club. C'est le premier match où on voulait vraiment voir parce que Rennes valait dans la façon dont il pouvait dominer une équipe plus faible, puisqu'à Lorient, bon, le scénario, il est un peu tronqué évidemment avec les cartons rouges. Marseille fait pareil, ils sont en infériorité numérique, et Seb, voilà, pour moi c'est très stéréotypé, ça manque de tranchant en attaque. En fait, c'est un peu comme les derniers mois de la saison dernière sous Habib Bey, c'est cohérent, mais ça ronronne. Et là, face à une équipe d'Angers généreuse, bah, il risque de ramener un seul point et ce sera insuffisant.
Moi, je les trouve assez neutres, voire même suffisants, ouais. Je trouve, dans ce qu'ils font. On parlait de changement de rythme, mais c'est un peu le football moderne, hein, de haut niveau. Et encore, sans avoir une possession à outrance, je trouve que voilà, ils proposent pas grand-chose par rapport à l'effectif qu'ils ont sur le papier. On en parlait là, ils ont quand même des joueurs, sacrés joueurs, que ce soit des joueurs confirmés de Ligue 1 ou de jeunes joueurs de talent. Et c'est vrai que quand on compare avec Angers, là, même la prestation là cet après-midi, c'est hyper poussif.
Et Jérémy Jacquet qui va avoir du mal à dégager, il est moins dedans, hein, depuis quelques matchs. Jérémy Jacquet, est-ce que tout ce qu'on peut entendre sur lui, les grands clubs qui le suivent, est-ce que ça lui trotte un peu dans l'esprit? Mais en tout cas, il est pas du tout, fait pas un bon match cet après-midi également. Mais oui, c'est en fait Habib Bey est obnubilé aussi par la tactique, par le contrôle. Il veut que son équipe contrôle, il veut une équipe qui est très bien tactiquement. Alors c'est plutôt le cas, mais c'est une équipe qui est très dense aussi, hein, au milieu. Il y a assez peu de joueurs offensifs alignés à chaque fois, et pour l'instant c'est insuffisant pour réussir à marquer. Voilà, Bibé, il a horreur du déséquilibre, et pour l'instant c'est peut-être un petit peu trop propre tout ça, ce qu'on voit. Et la suffisance, je sais pas, Seb, peut-être pas quand même, mais je trouve qu'ils en mettent pas assez. En tout cas, les Rennais, c'est certain, et là encore une deux techniques, c'est raté entre Frankowski, ils se sont pas compris avec Yildirim qui vient d'entrer en jeu.
La suffisance, il n'y a pas un écart. Parle toujours par rapport au talent qu'il y a dans cette équipe, hein. Oui. Si c'est une équipe où on sait que c'est limité en termes de qualité intrinsèque de joueurs, je peux comprendre. Après, quand on voit voilà, les joueurs qu'il y a sur le terrain, alors je dis pas pour tout le groupe, mais en tout cas moi c'est ce que je ressens. En tout cas, c'est ce qui se dégage quand je vois cette équipe de Rennes.
Il reste, il y aura 4 minutes de temps additionnel. On y est entré depuis 15 secondes. On va voir si Maurice va faire la décision. Si les Angevins vont prendre ce point, ça ferait 4 points en 3 matchs. Hein. Ce serait un bon début de saison pour le SCO, évidemment, après cette victoire face au PFC ici à Raymond Coppa, la défaite honorable au Parc et un nul ici face à Rennes. Ce serait évidemment très intéressant pour l'équipe d'Alexandre Dujeu, et ce serait insuffisant pour Rennes, ces 4 points en 9 matchs, évidemment, pour le stade Rennais avant d'accueillir Lyon au sortie de la trêve internationale. Allez, il reste quelques minutes avec Valentin Rongier. Il y a Quentin Merlin qui est tout seul à gauche. On va jouer avec Kader Meïté. Une touche de balle, 1-2. C'est du jeu rapide, Kader Meïté. Ouh, il a couvert Arcus. Il a été. Il s'est pas fait avoir, heureusement, mais il avait peut-être pas compris que Kader Meïté allait venir si vite derrière lui pour essayer un peu en filou de mettre le bout du pied. Mais c'est bon, Hervé Coffi a réussi à capter le ballon et à le garder au chaud. Il va pouvoir dégager son camp. Un petit peu moins de 3 minutes à jouer pour les Angevins, avec le gardien burkinabé qui va dégager loin devant. à la main avec un gros bras là, d'Hervé Coffi pour la tête de Machine, Leroy Machine, l'un des jeunes attaquants qu'on découvre cet après-midi. Le dégagement loin devant de Jordan Lefort et Leroy Machine, il va aller la jouer parce qu'il a raison, il faut aller défier Anthony Rouault. Il y a un deuxième qui arrive derrière, il y a Yacine Begdi, prise à deux sur Anthony Rouault. La relance elle est pas bonne, elle est récupérée par les Angevins. Il faut essayer de jouer dans l'axe peut-être pour Jacques Écommier. Voilà, applaudi par Raymond Coppa parce que c'est à l'image de ce qu'ils ont fait les Angevins, une équipe bien courageuse qui continue d'aller presser très haut même à la 92e minute, et ça leur permet de récupérer le ballon et peut-être de vivre un temps additionnel assez tranquille puisqu'il reste 2 minutes à jouer et qu'il y a un but partout, et le stade Raymond Coppa est en train de chanter comme si c'était une victoire, parce qu'évidemment ce sont des attitudes qu'on aime voir hein, dans un club qui joue le maintien. Oh, c'est magnifique, le relais de Leroy Machine, Marius Courcoul qui est parti, il faut la mettre de l'autre côté. Est-ce qu'il a vu Courcoul? Il est tout seul au deuxième, il est tout seul au deuxième, il va crocheter, il va pas réussir à lui donner, il a tardé Marius Courcoul. Est-ce qu'il l'avait vu? Je sais pas, mais le jeu était à droite.
Il faut qu'il lève la tête juste pour voir, parce que bon, il a, même si le départ de l'action il est magnifique hein, ils arrivent à trouver le décalage, à se retrouver en supériorité numérique, qu'il a le temps dans sa course à un moment donné de lever la tête
et voir.
Au moins essayer de la donner un peu plus tôt parce que le jeu était à droite. Raoul Issoa était vraiment tout seul, il s'est blessé sur l'intervention défensive des Rennais. Marius Courcoul, il reste au sol, il va se relever, il va gagner un petit peu de temps aussi très certainement. Alors, je pense pas qu'il fasse du chic, il se relève, il boite un petit peu, mais ça va aller pour Marius Courcoul. L'arbitre lui fait signe qu'il n'y avait rien du tout et il y aura un coup franc pour les Rennais, coup franc très lointain. Ce sera la dernière hein, peut-être, puisqu'on entre dans la dernière minute de jeu, et d'ailleurs les défenseurs centraux vont monter, notamment Jérémy Jacquet. Il y a Kader Meïté évidemment qu'on peut aller trouver là en tour de contrôle. Il y a un beau duel entre Kader Meïté et Ousmane Camara là, en termes de gabarit ils sont à peu près sur les mêmes bases. Je pense que Kader Meïté et ses 17 ans sont même plus costauds encore que Ousmane Camara qui doit faire son 1m90. Donc il va falloir guetter ça dans la surface, faut qu'il s'applique Quentin Merlin pour ce dernier coup franc tiré pour un relais de Jérémy Jacquet. C'est remis dans l'axe, le ballon qui est toujours dans les airs, ça traîne, Ousmane Camara qui dégage, ça revient sur Fabien Rieder à 20 mètres et ballon gagné par les Angevins et par Jim Alevina. Le tacle de Fabien Rieder, le Suisse, ce sera une touche en faveur des Angevins. Rieder applaudi par Habib Bey, mais je pense qu'il ne sera pas satisfait de la prestation de son équipe. En tout cas, on le souhaite, hein, parce que s'il est satisfait, ça serait un petit peu inquiétant. Quand même, on ne peut pas se satisfaire de ça du côté des Rennais. La touche va être faite, mais du côté des Angevins, on prend vraiment son temps. Et ce sera la fin du match. C'est même terminé. Match nul entre Angers et le Stade Rennais. On pensait que les Rennais avaient fait le plus dur avec l'histoire qui semblait écrite. C'est à savoir le but d'Esteban Lepaul face à son ancien club à la 21e. Mais les Rennais ont un petit peu trop géré. N'ont pas essayé suffisamment peut-être de faire le break et de faire le jeu. Et ils ont été pris par une magnifique égalisation du jeune Prosper Peter de la tête à la 51e. Ça fait 4 points pour les deux équipes avant la trêve internationale. 4 points en 3 matchs pour Angers, 4 points en 3 matchs pour Rennes, un partout.
Et bon début de saison pour Angers et mauvais début de saison pour Rennes. Merci beaucoup Xavier, à très vite sur l'antenne de RMC. C'est pas grand chose à dire.
Ouais, un match nul logique, grosse déception côté Rennais.
Et un petit peu d'espoir pour des Angevins qui ont prometté l'enfer cette saison. Dans un instant, le multifoot avance un petit détour par la Vuelta, la 9e étape du Tour d'Espagne. Les leaders à l'attaque, Vingegaard devant, Johan Bonov.
Selon tête, Jonas Vingegaard qui a profité d'un mouvement d'équipe de la Visma. Jorgensen a attaqué l'Américain avec dans sa roue justement Jonas Vingegaard. Julio Ciccone s'est accroché un temps, mais le Danois s'est envolé. Mais derrière, attention, Joao Almeida monte à son rythme et il maintient l'écart autour de 9 secondes. Voilà, la lutte entre les favoris du général a lieu pour cette arrivée donc dans 9 km maintenant à la station de ski de Valdescaray. Vingegaard seul en tête.
À suivre évidemment dans quelques minutes sur RMC. Je vous rappelle les deux belles nouvelles sports côté français de l'après-midi, la qualification des Bleus de l'équipe de France féminine de volleyball pour les quarts de finale des championnats du monde. Leur présence en 8e était déjà une première historique. Elles ont battu les Chinois de 5e mondial et elles affronteront les vainqueurs de la rencontre entre le Brésil et la République dominicaine. Et puis le premier podium de la prometteuse carrière d'Isaac Hadjar en Formule 1. Le pilote français devient à 20 ans le plus jeune pilote de l'histoire des sports de la F1 française à monter sur un podium de Formule 1. Il offre à son écurie le premier podium depuis Bakou en Azerbaïdjan en 2021. Isaac Hadjar, troisième du Grand Prix des Pays-Bas, derrière Piastri, vainqueur, et Max Verstappen. Vous ne bougez pas, le sport ne s'arrête jamais sur RMC. Dans un instant, c'est l'intégral foot. C'est Karine Galli qui prend les platines du studio RMC. en compagnie de Jean-Pierre Papin. Ça nous promet des buts, évidemment, entre Monaco et Strasbourg, Paris FC, Metz, Le Havre-Nice. Vous ne bougez pas, le débat, l'info, le sport ne s'arrête jamais sur RMC. Salut.
RMC. Intégral Sport.